Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 19. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Donc si vous avez des questions, des suggestions, des informations à nous soumettre, des liens vers des articles, etc., n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse. Ou si vous nous avez fait un don et que vous souhaitez qu'on vous remercie à l'antenne, comme c'est la moindre des choses, n'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous signifier que vous l'avez fait, si vous le souhaitez bien évidemment. Donc je passe maintenant effectivement au don. Vous pouvez nous soutenir si vous aimez ce que l'on fait. En nous envoyant des dons exclusivement en crypto-monnaie, plus particulièrement Monero. Donc, y a un guide explicatif à droite sur le site internet pour maîtriser l'usage de Monero qui garantit votre anonymat ainsi que le montant de la transaction. Je tiens à remercier d'ailleurs un donateur qui s'est manifesté cette semaine, il y en a beaucoup plus, mais tous ne nous écrivent pas, donc déjà je salue les anonymes qui nous soutiennent, nos mécènes anonymes, mais nous avons Martok qui nous a écrit et qui nous dit ceci: j'ai envoyé environ 50 euros, soit un peu plus de 0,7 Monero, et Martok nous souhaite de continuer l'aventure. Alors merci à lui, hein, c'est sûr que grâce aux mécènes ça peut continuer tout ça. Alors, je vais maintenant présenter les membres de l'émission de cette semaine. Nous sommes, comme vous le savez, à la veille du déconfinement, donc ça sera demain acté, lundi. Donc, je vais commencer avec Pierrot, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Comment vas-tu, cher Pierrot ?
Bah écoute, Gandalf, ça va très bien. Une semaine mouvementée, hein. Je suis un peu de retour, j'ai fait un petit break d'une semaine. Et oui, je suis très content de vous retrouver.
Bah pareillement, pareillement. Fulbert est avec nous et je suis sûr qu'il a été particulièrement ému pour ce 8 mai 1945. Hein, je veux dire, c'est quand même un jour important pour la démocratie. Je sais que tu y es sensible, cher Fulbert.
Ah oui, oui, tu l'as dit. Oui, bonjour à toi, Gandalf, et bonjour à tous.
Alexis est aussi avec nous cette semaine. J'espère qu'il va bien.
Bonjour, ça va, merci. Salut tout le monde.
Diabolix aussi est avec nous.
Bonjour à tous. Bonjour Gandalf.
J'espère que ça va bien du côté de chez Diabolix aussi.
Je bronze sous un soleil de plomb.
Ah bon, c'est formidable. Et enfin, l'éminence grise de l'émission qui procède.
Non, l'éminence noire.
L'éminence noire. Bon, mais qui quand même intercède auprès de l'Éternègre pour nous tous collectivement. J'espère que tu vas bien, cher Derek.
Mais oui, je vais très bien. Je me prépare pouvoir sortir sans attestation, bien que je ne faisais pas d'attestation quand je sortais. Mais bon, voilà.
D'accord. Alors messieurs, je vous propose de commencer avec notre première rubrique, courrier des lecteurs. Le courrier est assez long, donc j'invite nos participants à le commenter au fur et à mesure plutôt que de le lire d'une traite. C'est un jeune auditeur qui a vécu en Polynésie et qui tenait à nous faire partager son expérience personnelle donc dans ce territoire d'outre-mer, comme on les appelle, hein, Dom-Tom. Donc là, on va plus dans l'océan Pacifique déjà. Hein. Alors, la Polynésie a beaucoup moins mauvaise image, je dirais, que les Antilles et la Guadeloupe, mais nous allons en savoir plus tout de suite. Alors, je tiens à préciser aussi que ce courrier nous avait été envoyé il y a un moment déjà, mais qu'on n'avait pas eu le temps de le lire. Donc, c'est l'occasion de réparer cela. Alors, bonjour, chers camarades démocrates. J'ai décidé de vous écrire pour vous faire part d'un récit qui ne manquera pas de vous étonner. Ce courrier vous paraîtra sûrement très exotique et pour cause, je vais vous parler de mon expérience en Polynésie française, lieu où j'ai passé plusieurs années de ma vie. Avant de commencer, laissez-moi vous remercier pour l'inoxydable travail que vous fournissez, on ne le vous dira jamais assez. J'ai donc vécu en Polynésie française, sur une île paumée au milieu de l'océan Pacifique. Je vais éviter de donner le nom de l'île précise, mais disons qu'il s'agit dans 99% des cas de celle qu'on voit en fond d'écran sur l'ordinateur des boomers, ceux-ci croyant avoir affiché une photo de leur dernière croisière en Martinique. Là-bas, vous êtes littéralement à l'opposé terrestre de la France, à l'autre bout du monde, avec 12 heures de décalage horaire. Autant vous dire que même si ces cailloux perdus dans le Pacifique appartiennent officiellement à l'État français, les Juifs ont du mal à y foutre le nez. Mes parents sont profs, tous les deux. Vous parliez d'ailleurs en émission des profs se mettant en couple. J'en suis le résultat. Deux profs blancs, donc, qui, à leur demande, sous les conseils d'autres profs ayant expérimenté ce juteux créneau, obtiennent une mutation en Polynésie française. Il faut savoir que pour les profs mutés, surtout à cette distance, tout comme tous les autres fonctionnaires, gendarmes et militaires par exemple, ils voient leur salaire au minimum doublé, sans oublier la récompense ultime des primes d'éloignement très généreuses qu'ils reçoivent régulièrement, parce que bon, c'est vrai qu'éloigné du nègre, on peut vite se sentir mal.
Mais, et n'oublions pas la continuité territoriale. Au niveau des billets d'avion, c'est intéressant.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Alors, en fait, tous les départements d'outre-mer ont ce que l'on appelle la continuité territoriale, c'est-à-dire qu'ils ont des avantages au niveau des billets d'avion, soit pour les étudiants, mais par exemple, si tu organises à Paris un concert de musique traditionnelle...
Ah oui, tu nous en avais parlé. Ouais.
Voilà, c'est le conseil général qui paye. Donc tout ça, c'est le contribuable français, mais plus souvent hexagonal qu'un autre. Bon...
D'accord, continuité territoriale, d'accord, c'est bien de connaître le concept, donc, qui consiste à cramer l'argent des Blancs, donc pour les faire venir plus vite, je présume.
Évidemment.
Évidemment. Donc mes parents n'avaient donc rien à envier à un salaire de ministre, tout ça dans une ambiance tropicale de vacances perpétuelles. Imaginez, c'était le paradis pour ces crypto-boomers de l'éducation nationale. C'est donc ainsi que je me suis retrouvé, moi, petit gosse blanc de 10 piges, dans un univers géographique et racial complètement nouveau, entre ségrégation naturelle et racialisme banalisé, où la situation locale n'a, pourrait-on dire, pas changé depuis l'époque coloniale. Voici donc quelques anecdotes et impressions générales sur la vie en Polynésie française. J'ai vécu 4 ans là-bas. Période correspondant à toutes mes années de collège. 4 années qui, à l'âge où je les ai passées, paraissaient 10 ans. Cette période est très formatrice car correspondant à l'entrée dans l'adolescence et au début de la confection d'une identité propre. J'ai évité le collège en France où j'aurais pris de plein fouet la diversité et je me suis retrouvé dans les colonies. Ainsi, en retournant en France, je n'avais absolument aucune idée de l'enfer racial qui y régnait. Quel choc ce fut pour moi que de découvrir Paris et ses nègres magiques. J'avais vécu dans une bulle pendant des années importantes de ma vie. J'étais vierge de toute opinion politique propre à la situation française lorsque j'entrais au lycée. À ce moment-là, je ne savais même pas qui était Jean-Marie Le Pen ou n'importe quel autre politicien. J'avais vécu dans un autre monde qui m'avait forgé dans la réalité raciale la plus primitive. Et je ne pensais pas, lorsque je suis rentré en France, avoir quitté un enfer racial pour en retrouver un autre, cette fois pire. Dès mon arrivée en Polynésie, les profs qui avaient précédé mes parents nous ont fait comprendre qu'ici nous étions des Popa, des Blancs. Les autres sont les Polynésiens, ou Tahitiens. Là-bas, la société est naturellement ségrégée. Les autochtones vivent de leur côté, les Ariens du leur. Quand un Français arrive, son premier réflexe est de sociabiliser avec les autres Français. Les liens demeurent donc instinctivement limités aux gens de même race, car aucun métèque originaire de la métropole. Oui, il veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de gens de couleur qui viennent, je sais pas, des Algériens en Polynésie, quoi.
Ce phénomène... Les Algériens, ça commence à venir. Hein,
c'est possible, c'est possible. Bon, donc, de lui, de son expérience, c'est pas ce qu'il a vécu à l'époque où il l'a vécu, mais ça remonte un petit peu. Alors, ce phénomène d'attroupement racial est d'autant plus présent chez les profs. Quand un prof débarque de France, il va connaître d'autres profs et leurs enfants traîneront avec les autres enfants de profs. Étant fils de prof, je me suis retrouvé dans cette situation. Les liens se font entre Français, et quand c'est pas entre Français, c'est entre Blancs. Ainsi, avant même le contact avec la population locale, les Blancs, enfants ou adultes, rencontrent d'abord d'autres Blancs, qu'ils vont côtoyer durant toute la durée de leur présence en Polynésie. Les îles étant petites, on observe donc chaque année la régénération d'une classe sociale dominante blanche par l'arrivée de nouveaux Français, car les Blancs là-bas occupent tous les postes importants. J'étais le seul blanc de ma classe dès la première année, avec ma peau très blanche et mes cheveux longs et blonds que j'avais à l'époque. Je ne cessais d'étonner mes camarades qui me demandaient si j'étais anglais ou originaire de je ne sais plus quel pays. Les filles mettaient toutes leurs mains dans mes cheveux pour les palper, les trouvant fascinants. Il fallait toujours que je me débatte pour éviter cette pluie de mains marron qui s'abattait sur moi à toutes occasions. Les Polynésiens parlaient un français déformé, mélangé à des mots en tahitien. À ce propos, j'avais des cours de tahitien. Mes camarades avaient des aptitudes innées que je n'avais pas, mais ma condition d'étranger blanc me permettait d'échapper à toute assiduité dans cette étrange matière. Je l'ai dit, les Blancs se regroupaient entre eux. Ainsi, durant les récréations, nous nous retrouvions tous et jouions ensemble, fils de prof, de gendarme ou de médecin. Les seuls non-blancs que nous côtoyions étaient des Asiatiques ou des Polynésiens avec du sang blanc. Là-bas, on appelle ça des « demi ». Je reviendrai sur ces cas plus tard. Mais la séparation raciale demeurait quand même très nette. Les Blancs avaient leur propre coin et leur propre jeu. Vu que tous les Blancs du collège jouaient ensemble, les profs sont venus nous emmerder. Ils ont beau être des Blancs dans un univers racialement ségrégué, ils ne perdent pas leur réflexe de sale gauchiste de merde. Alors nous nous sommes retrouvés, moi et une poignée de mes camarades, les têtes de file de la Hitlerjugend locale, dans le bureau du principal, à nous faire engueuler par son adjointe insupportable, une boumeuse anorexique à la voix de tabagique usée par le passage des pénis de nègre qui devait tant lui manquer de la métropole, car nous, petits blancs, nous restions ensemble à jouer entre blancs. Nous nous fîmes traiter de racistes, et je précise que nous devions avoir une moyenne d'âge de 12 ans, pas loin. Elle voulait savoir pourquoi nous n'acceptions pas de Polynésiens dans nos rangs. Je lui répondis que nous n'étions pas nécessairement contre leur présence parmi nous, simplement qu'ils ne venaient pas dans notre coin car ils avaient le leur. C'est tout aussi simple que ça, en effet. À chaque race, son territoire, inutile de se mélanger. Autre fait. Je venais d'arriver en Polynésie, il s'agissait pour moi d'un premier cours de sport. Le collège était situé en plein centre-ville, enfin, si on pouvait appeler ça un centre-ville. Alors le petit terrain de sport, en bitume encadré d'un vieux grillage, était accolé à l'établissement et se trouvait en plein dans le centre névralgique de la ville. Ainsi, on voyait les gens partout autour se rendre au petit centre commercial local situé juste en face. Le cours se passe et un autochtone m'insulte, sans que je ne calcule vraiment la chose, étant donné que je m'en étais presque même pas rendu compte. Le prof, lui, qui a entendu la remarque, commence à l'engueuler. Or, la mère du gamin en question, qui venait sûrement faire ses courses, passait par là à ce moment précis, et voit son fils se faire réprimander par le prof. Elle s'avance pour savoir ce que son gamin a fait comme connerie. Quand le prof dit que le Polynésien m'a insulté, elle regarde dans ma direction, puis fixe son fils et prononce énervé « Un popa en plus !» Et elle lui colle une énorme tarte. Donc, elle a dit « Et un blanc en plus !» Et là, elle a foutu une gifle à son rejeton, quoi. Le gamin retourne les larmes aux yeux auprès des autres élèves, le regard rouge braqué vers moi. Autant dire que pour se faire accepter, la chose ne pouvait pas être pire. Et il ne s'agissait pas pour moi, que des premiers mois dans ce nouveau monde. Pourtant, grâce à cet événement, j'avais d'une certaine manière déjà compris l'essentiel. Il faut savoir que les Polynésiens ont un grand respect pour l'autorité des Blancs, mais pas que ceux-ci soient très disciplinés, au contraire, mais ils ont conscience de la hiérarchie raciale naturelle en vigueur en Polynésie. Des altercations avec les locaux, j'en ai eu à l'appel. Eux voulaient toujours en venir aux mains de manière instinctive, très rapidement. Lorsque moi j'essayais plutôt de leur expliquer les choses et de parler, mais ça avait l'air de les agacer, ils s'agitaient, car ne pigeaient pas du tout les phrases trop longues, les rendant fous. Le niveau scolaire des Blancs survole implacablement le niveau des locaux, à tel point que tout Français qui arrivait en Polynésie se retrouvait propulsé au sommet de la classe. C'était dû à des facilités évidentes, mais aussi par force de travail, car il fallait conserver ce statut. Un Blanc qui n'avait pas les félicitations, donc minimum 15 de moyenne environ, était considéré comme un cancre, et faisait tomber le déshonneur sur sa famille aux yeux des autres Français. Les récompenses de mérite, telles que les félicitations ou le prix d'excellence, étaient donc naturellement réservées à 100% aux Blancs. Les autochtones ne dépassaient presque jamais la moyenne. Les seuls qui réussissaient à avoir des résultats respectables, c'est-à-dire intermédiaires entre ceux des Blancs et des locaux, étaient les Polynésiens qui avaient tissé des liens avec des Français et qui donc suivaient plus attentivement les cours, ou alors des demi traînant avec des Blancs et enfin des Asiatiques. Mais ces cas étaient extrêmement rares. Parlons-en de cela, les Asiatiques. Ce sont de grandes et riches familles, car les Asiatiques là-bas possèdent presque tous les commerces. Ce sont des Chinois, et comme à leur habitude, ils restent entre eux, et on ne les voit jamais si on ne va pas dans leur magasin. Une minorité certes, mais extrêmement influente. Ils font leur commerce et ferment leur gueule. Je n'ai jamais trop su comment se passait leur quotidien, mais je sais qu'ils rentraient souvent au pays et s'arrangeaient toujours pour avoir le monopole sur le commerce local en important massivement des produits chinois, produits, matériels destinés à la vente, mais aussi produits culturels. De nombreux plats traditionnels polynésiens sont en réalité d'origine purement chinoise. La consommation alimentaire quotidienne en Polynésie est d'ailleurs très influencée par l'Asie. Et pour cause, le principal magasin de mon île était un petit centre commercial chinois, avec un nom chinois, une main-d'œuvre chinoise et évidemment une offre chinoise. Les Blancs, eux, préféraient se rendre au petit super-U de fortune pour y consommer tout ce qui pouvait vaguement ressembler à de la bouffe qu'on pouvait trouver en France. Sur la religion, vous pouvez intervenir à chaque moment dans ce que je lis, hein, n'hésitez pas. Je vais parler de la religion maintenant. Il faut savoir que les Polynésiens sont tous sans exception chrétiens. Ils ne sont pas catholiques, mais se rattachent à des cultes auxiliaires, je ne m'y connais pas très bien, mais ce sont par exemple les Témoins de Jéhovah ou les Mormons. Il y a plein d'églises, et toutes sont d'une propreté exemplaire, car les locaux y versent une partie conséquente de leur salaire, j'ai entendu parler de 10%. Mais je ne peux rien affirmer étant donné que le domaine religieux est assez fermé, les Blancs de manière générale n'ont pas accès aux lieux et aux événements religieux des locaux. La population est très pieuse. Tous les dimanches, les politiciens se rendent incessamment à l'église, tous vêtus de chemises blanches ou, pour les femmes, de robes à fleurs traditionnelles. Les événements religieux, même aussi communs que la messe, sont pour eux très importants. Ainsi, lorsqu'un jour des ouvriers se sont rendus compte que l'édifice qu'ils étaient en train de bâtir n'était rien d'autre qu'une mosquée, croyez bien qu'ils ne se donnèrent pas la peine de l'achever, au contraire, ils y mirent le feu. Efficace, commente notre jeune auditeur. Depuis, plus aucune tentative d'implantation islamique n'eut lieu en Polynésie, à ma connaissance. Les quelques musulmans qui se sont retrouvés là-bas, je ne sais pas comment, subissaient les regards et les menaces de la population locale. Celle-ci, amatrice de la technique de la tête de porc fraîchement tranchée, encore sanglante, a déposé devant la porte des Mahométans. Encore une fois, efficace.
Prenons-en de la graine.
J'en profite pour préciser que je ne vis aucun métèque, mis à part quelques exceptions au cours des années que j'ai passées là-bas. Par exemple, il y avait un gosse nègre, c'était le fils adoptif d'un couple de boomers marseillais. Visiblement, la présence colossale de nègres dans la cité phocéenne aura inspiré les quelques Blancs qui y restaient. Je ne sais pas trop quoi en penser, alors si vous avez des réponses, je pense tout particulièrement à Derrick qui a l'air de bien connaître le coin, j'aurais hâte de vous entendre en débattre. Le nègre adoptif, torpillé en Polynésie par un couple de boomers marseillais donc, Fantastique. Pour l'économie.
Bah, oui, ouais, bah, vas-y. Si tu me permets
vas-y.
Quand même de rire, parce que
tu es sollicité. Tu es sollicité.
Donc oui, je pense que là, on a affaire à des fanatiques, puisque tu as des nègres à Marseille, mais ça reste quand même assez, assez mesuré par rapport à l'homo Marseillus qui est un Algérien en fait, hein, c'est un Algérien. T'as des Comoriens, mais là
j'ai cru comprendre, il y avait quand même beaucoup de Comoriens.
Ouais, il y a Comoriens. Ouais, t'as des Comoriens, mais par rapport à l'Algérien, c'est rien.
D'accord.
C'est très.
Mais il faut bien que les Algériens aient leurs esclaves.
Oui, oui, ben les Algériens, ben les Comoriens sont les esclaves des Algériens. C'est-à-dire que tu as des Algériens qui ont des HLM de 3-4 pièces, voire 5 pièces, et qui les sous-louent à des Comoriens qui font pas mal de blé là-dedans. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de nègres comoriens qui ont été contaminés par le virus.
Là, oui.
Parce que les types, en fait, ils vivent ils vivent comme des sardines.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Ils vivent dans des apparts à 25-30, quoi. Hein, dans des appartements loués par des Algériens, justement. Et qui sont des. C'est les appartements à loyer modéré que vous payez, hein, vous, Français. Donc il y a toute une.
C'est localisé où dans Marseille ça, c'est, les Comoriens sont situés dans une zone particulière ou au quartier nord,
d'accord. Les quartiers nord, il y en a au centre aussi. Hein. Enfin, ils font des fêtes. Moi, j'ai des collègues qui font. Ben, au centre, c'est pourri. Tout le centre-ville est pourri de. Ben, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait eu des immeubles qui s'étaient effondrés au centre-ville.
Ouais.
À la rue d'Aubagne.
Ouais.
Ben, ces coins-là, c'est. Alors, pour le coup, c'est truffé de nègres. La rue d'Aubagne, c'est la rue. C'est... Bamako est quelque chose de plus civilisé que ce truc-là. Hein. Même les coins d'Afrique sont beaucoup plus propres. Ah non, mais vraiment. Hein, c'est... Enfin, moi, pour connaître un petit peu les deux, je peux te dire que la rue d'Aubagne, c'est un chiotte de niveau mondial. Hein. C'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Donc ça, bon, ça c'est des petits apparts de centre-ville, mais les gros apparts dans lesquels les Comoriens s'empilent, c'est les quartiers nord. Et là, effectivement, on est dans de l'élevage en batterie. Hein,
d'accord.
Batterie de nègre. Mais je ne pense pas que le nègre adopté vienne de là. C'est probablement un nègre à babine qui vient du Tchad, du Cameroun, enfin, des trucs comme ça. Quoi. Ces gens-là aiment bien les caricatures. C'est comme s'ils étaient allés au musée. On prend la créature de foire, mais c'est le meilleur. Donc le nègre à babine et avec un canon, un fusil juxtaposé à la place des narines.
Et donc, comment dirais-je, je ne vais pas te demander de faire une étude précise là-dessus, parce que bon, mais on a deux profs donc originaires de Marseille qui adoptent des nègres. C'est un phénomène que tu observes assez souvent dans cette région-là, enfin là, je parle pas de.
Non, moi j'avais vu, j'avais vu des comment ça s'appelle, des boomers, alors ouais, des boomers, mais de première génération, enfin oui, des vieux boomers, quoi, vraiment juste des générations d'après-guerre qui avaient adopté des ping-pong, là,
des boat people.
Ouais, des trucs comme ça. Voilà, donc.
Des Vietnamiens donc.
Ouais, des Viet. Un petit peu après, des Cambodgiens ensuite. Bon,
des
espèces de nègres d'Asie Sud-Est. Quoi.
D'accord, mais pas des Africains, quoi.
Non.
D'accord, très bien. Bon, écoute, merci de tes lumières. Le mystère reste quand même entier, mais on a des pistes.
Mais il serait intéressant en Polynésie d'ouvrir un zoo multiculturel de tradition africaine où on importerait un Ghanéen, un Tchadien, un Algérien, un Marocain, pour montrer à ces braves gens ce que sont ces espèces diverses et variées.
Alors, il y a un truc intéressant dans les rapports raciaux qu'il a quand même assez bien détaillé, c'est qu'en gros, moi j'ai connu quelques Polynésiens aussi. Bon, apparemment, il y a quand même des tensions, c'est-à-dire...
Ils n'aiment pas les phrases longues.
Ils n'aiment pas les phrases longues. Ce sont des gens aussi qui consomment pas mal d'alcool, et quand ils consomment de l'alcool, ils deviennent
assez
violent.
Méchant,
Ouais, et en sachant que les Polynésiens sont, on peut le dire, hein, des forces de la nature. Hein. Donc
hein. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup, des gens qui pourront confirmer ici dans l'armée.
Dans l'armée, ouais.
Ouais.
Ouais. Et donc moi j'ai connu un peu ce genre de bonhomme.
Ouais.
Effectivement, tu leur mettais un petit peu de rhum, ils se transformaient, tu vois, un peu comme les Gremlins, et ils voulaient tout le temps se battre pour des motifs complètement
Ouais.
débiles, quoi. Avec tout le monde, officiers, machin, ça avait aucune limite. Et effectivement, aussi dans l'armée, vu qu'ils ont des capacités physiques évidentes, ils se sentaient bien, tu vois, faut pas trop réfléchir, et puis il faut bouger un peu, faire du sport, et puis picoler. Ça, les Polynésiens, ils aiment bien ça, ouais.
Ouais, c'est des gros cogneurs aussi.
Et attention, ce sont des anciens cannibales.
Je sais pas s'ils
Ouais,
pratiquaient
ancien.
Je sais pas s'ils pratiquaient le cannibalisme en Polynésie.
Si, si.
Oui.
C'est possible. Comment dire
Aime ton prochain comme toi-même.
ouais. Alors,
Avec la
mais,
moutarde.
alors par contre, on voit bien. C'est ce qu'il nous dit, ce qui ressort de son cœur. On voit bien qu'en dépit de. Visiblement, ils sont quand même assez bagarreurs, hein. Mais comme il dit, ils respectent la hiérarchie raciale, qui est une hiérarchie naturelle, en fait, hein, qui est une hiérarchie qui s'exprime naturellement. Voilà, les
C'est pour
blancs
ça
bossent.
qu'ils font notre, c'est pour ça qu'ils font de très bons soldats.
Mais je crois qu'ils comprennent aussi très bien tout l'intérêt de la présence française, hein, je pense. Bon, sauf qu'il y a quand même, je crois, 50% de l'électorat, 40% qui est indépendantiste. Mais il y en a une autre moitié qui ne l'est pas. Alors bon, je ne suis pas versé dans les détails, mais ben bon, ça me paraît évident de dire que sans les transferts de fonds français, le niveau de vie en Polynésie serait pas celui qu'il est, quoi. Ça paraît évident, quoi. Parce que c'est quand même considérable, hein, c'est en plein milieu du
Bah, ils
Pacifique,
sont...
c'est très éloigné de la France, hein.
bah, les Chinois sont déjà là, donc ils se feraient violer par les Chinois, quoi. Bah, les Chinois,
Oui, les
ils
Chinois
sont.
font savoir sans trop se cacher que l'indépendance de la Polynésie leur plairait assez, hein.
Oui, bah, ils ont des vues, hein, sur ce
Tout à fait.
territoire-là,
Ouais.
très clairement.
Ouais, alors tu as le même problème à une échelle moindre, à Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que les locaux sont des blancs. Donc bon,
Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'est-ce qui les emmerde un peu? J'ai connu un gars qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il m'a pas parlé de.
C'est breton, ça, c'est un gars.
Non, non, mais
C'est un peu mélangé.
ce que je veux dire par là, c'est que c'est la métropole file du pognon à tire-larigot,
Ouais.
mais ceux qui en profitent, c'est d'abord les blancs fonctionnaires installés sur place.
Oui, et
Bon.
il y a beaucoup de turnover.
Bah, évidemment qu'il y a du turnover, personne
Ouais.
n'a envie de rester là-haut, c'est désert. Bon, je pense que quand même pour la Polynésie, c'est quand même plus clément en termes
Oui, le
de
cadre est quand
climat.
même très différent.
Oui, absolument.
Mais comment dire, donc il n'y a pas, je crois pas me tromper, hein, mais il n'y a pas les mêmes types de tensions qu'on va retrouver dans les endroits anègres, type Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, La Réunion et tout. Je crois pas que ce soit la même chose du tout, en fait. Et
Non,
ils sont
non, et d'ailleurs, j'ai une chose,
déjà,
enfin.
ils sont pas mélangés. Donc
Mais
ça, c'est la première chose.
ils sont pas
Ils ont.
mélangés, et j'ai. Pour avoir côtoyé quelques gens des îles, ils avaient une haine des bougnoules absolue.
Alors, tu
C'est.
parles de quel type de métis d'Antillais, c'est ça?
Ah non, 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 moi je parle de
Non.
Wallisiens.
Pas
Ah,
des
d'accord. Ouais.
Melanésiens, ouais.
Là, mais là,
De
des hommes, d'accord.
Wallisiens, alors des forces de la nature, mais ils ne pouvaient pas blairer les Arabes, à un niveau stratosphérique. Et ils leur fonçaient dans la gueule, hein. Ils en avaient absolument pas peur.
Diabolix.
Ah, mais moi j'ai dit.
Ouais, tu dis ils sont pas mélangés, donc enfin il y a un petit peu de métissage, mais ça c'est pas très endémique, hein, c'est un peu limité.
Non, mais le métissage que tu vas avoir en Polynésie, c'est généralement des Polynésiennes qui se retrouvent maquées à des Français. Mais tu vas pas avoir des Polynésiens qui vont commencer à massivement se mettre à la colle avec des Algériens,
Ah oui, non, non,
avec Mamadou, ou autre. Autre chose, ce sont des gens qui sont extrêmement nationalistes, c'est-à-dire que
non.
c'est leur île, même si c'est la France, mais c'est leur île à eux. Et bon, au niveau business, ils ont leurs entreprises, ça tourne relativement bien, mais entre eux, ils ne se mélangent pas au niveau business, ils ne se mélangent pas au niveau cul, donc c'est quand même une structure d'un peuple uniforme. Ce que tout ce qui est Martinique, Guadeloupe et autres. C'est devenu un espèce de melting pot dans lequel tu ne peux plus déterminer qui est qui. Et attention, ça pose un autre problème en Martinique, Guadeloupe et autres, et Réunion. C'est quand tu dois te faire greffer, par exemple, un rein. Parce que quand tu dois te faire greffer un rein, on analyse la possibilité de ta greffe sur base des HLA. Et le tout, c'est de trouver des HLA qui soient compatibles. Quand tu te retrouves dans un peuple uniforme, les HLA sont compatibles avec une certaine majorité de la population. À la Réunion, si tu as besoin d'un rein, mon gars, je te souhaite bonne chance. Parce qu'il faut trouver quelque chose qui soit compatible avec des HLA de Bougnoul, de, comment dire, de Nord-Africains, de Chinois,
et de Nagom,
ouais, de Malbar, de Tamoul, ouais. J'en passe et d'ailleurs. Ouais. Je te souhaite bien du plaisir.
Ouais, ça c'est bien que tu... C'est un petit hors-sujet, mais tu parles des reins, mais il y a aussi les greffes de moelle osseuse aussi. Les greffes de moelle osseuse.
Ah, tout à fait, oui.
C'est pour la leucémie.
Dès que tu vas toucher au HLA, dans tous ces pays où on t'explique que le multiculturalisme, le fait de baiser ensemble et de faire des métis à tour de bras, c'est quelque chose d'enrichissant, ça donne un sang nouveau, je te souhaite bien du plaisir pour la compatibilité. Pour la compatibilité. Tu vas voir, c'est super top.
Oui, c'est là que tu vois que déjà, ces créatures-là qui jouent à la loterie avec la génétique. C'est-à-dire que tu chopes... Déjà, les nègres sont pourris. Le nègre est fourré de maladies, d'imperfections cardiaques, d'imperfections de tout genre, et qui fait qu'il crève en général très, très jeune.
Ah ben, tu leur files la rougeole, ils meurent.
Oui, ça. Mais quand tu mélanges ça à d'autres races, ben, tu vois, ça peut, dans certains cas, faire des êtres qui ont quelques renforts sur certains points, mais en général, ça fait des monstres non viables. Enfin, non viables, en tout cas, sur la durée.
Oui, c'est-à-dire, de toute façon, c'est un individu, mais je veux dire, ça peut pas se perpétuer de génération en génération sans dommage, quoi. C'est ça que tu veux dire.
Ouais.
En tout cas, c'est intéressant les rapports raciaux en Polynésie qui sont donc différents de ceux qu'on peut observer, j'allais dire dans les autres dom-toms, mais en réalité même en France aujourd'hui, puisque la France est un territoire multiracial. Bon, mais on va pas revenir sur la France, donc voilà. Alors, son courrier continue et il veut nous parler un peu d'économie. Alors, économie. Il n'y a pas d'impôts. Aucun. Seulement des taxes importantes sur les importations, ce qui rend le prix des choses beaucoup plus élevé. La monnaie n'est pas la même, il s'agit du franc pacifique. Exemple. Après conversion, j'ai déjà vu un paquet de 6 actimel à 19 euros. La vie y est plus chère, ce qui justifie quand même les salaires élevés des fonctionnaires. Malgré tout, les denrées locales étaient d'excellente qualité, telles le poisson ou les fruits, logique, et étaient beaucoup moins chères qu'en France. Le riz provient évidemment de Chine, le lait et la viande proviennent, eux, de Nouvelle-Zélande ou d'Amérique du Sud, Chili, Argentine, et ne sont pas nécessairement plus chères qu'en France, ni de moins bonne qualité. Là-bas, on trouve également du bon pain, aussi facilement que sur le continent. Ça me fait d'ailleurs penser à je ne sais plus quel enculé communiste qui résumait l'identité française au fait de pouvoir bouffer une baguette de pain en Polynésie et à entendre parler vaguement français sortir des gueules de gibbons des nègres de Louisiane. Bref. Les gens sont très pauvres et vivent souvent dans des baraques en tôle. Si la population n'était pas si faible, on verrait de véritables bidonvilles se créer. Tout ça généralement à 2 mètres d'une plage paradisiaque. Enfin, paradisiaque. Pour tous les amateurs de vacances sous les tropiques ayant connu ça au quotidien, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais les paysages européens me manquaient beaucoup lorsque je vivais là-bas. La pauvreté ne rend pas les locaux malheureux. De toute façon, il n'y a pas d'impôts. En réalité, ces gens touchent des sommes incroyables à chaque tempête en se déclarant agriculteurs et se permettent donc de s'acheter d'énormes 4x4 américains hors de prix, tous sans exception. Il n'y avait que les blancs qui roulaient en Twingo. Ils vivent dans la merde, car ils sont juste feignants. La société de consommation a fait des ravages, et même si les coutumes et les traditions sont très ancrées dans la population, la modernité ne convient pas à ce peuple. Pour rappel, dans les années 50, ces gens vivaient encore dans des cabanes en feuilles de palmier. Voilà, je pense avoir fait un sacré tour d'horizon. Je sais que ce courrier est assez conséquent, je l'ai donc articulé en plusieurs parties pour éventuellement le découper, si jamais il était un peu trop long, pour en parler dans l'émission. Malgré tout, ce n'est là qu'un résumé, je n'ai pas pu parler de tout, et Dieu sait qu'il y a tant à dire. Alors, pour finir, sachez que les Polynésiens bouffent du chien, et ne s'en cachent absolument pas. Ainsi, tous les soirs, j'entendais les cris des canidés qu'on passait sur la broche. Les tropiques, décidément magnifiques. Salutations à toute l'équipe de démocratie participative, et salut à la victoire. Et c'est signé donc par le jeune Vercingétorix. Donc on mange des chiens en Polynésie, je ne le savais pas.
Mais à La Réunion, on pêche avec les chiens.
c'est vrai, on pêche le requin avec le chien.
Tu prends un chien, tu lui fous un hameçon en travers de la gueule, tu le lâches joyeusement, et bon, ben, le requin, il arrive, il voit quatre pattes qui bougent, qu'est-ce qu'il fait? Ben, gnaps. Et puis après, il a un peu mal de gorge pendant quelques temps. Voilà.
Ouais, ouais.
Évidemment, on a le squelette, la momie Brigitte Bardot qui gueule.
Ah oui, elle avait traité de... J'ai oublié de ce qu'elle avait dit, je sais pas, de sauvage, de cannibale, je sais plus ce qu'elle avait dit à propos de La Réunion. Elle est en procès, là, justement, pour ça.
Alors pour
mais
ceux
si,
qui...
si je puis me permettre, concernant les actimels à 19 euros, en fait... On va pas se leurrer, c'est la maladie de tous les départements d'outre-mer. C'est-à-dire que la France part du principe que la France est partout. Donc chacun de ces départements a droit, dans un principe égalitaire, exactement au même produit que ce que tu peux trouver en métropole. C'est très clair que tu n'as pas d'usine, d'usine Actimel. En Polynésie, tu n'as pas d'usine Actimel à La Réunion, donc ça vient par Air France, en charter, et ça te coûte un pont, mais stratosphérique. Et attention, si tu fais rentrer une palette de yaourt, tu vas peut-être en vendre 10%. Le reste, ben, ce sera périmé, on va gentiment le taper aux poubelles. Donc c'est toujours l'éternelle couillonnade, le contribuable hexagonal soutient une économie qui est fabriquée totalement artificiellement, c'est une gabegie financière, mais c'est même plus stratosphérique. Si on devait comparer la gabegie financière des dom-toms à la dette des États-Unis d'Amérique en ce moment, je ne suis pas sûr que les Américains gagnent. Parce qu'on claque un pognon de con pour rien, absolument rien, pour permettre à des profs à double ou triple salaire de pouvoir savourer un Danone au petit-déj. C'est tout.
Oui, les populations locales, bon, pour le coup, sont un peu victimes de ce système. Parce que...
Mais les populations locales se foutent complètement des produits qui viennent de l'Hexagone.
Ah oui, tout à fait.
Elles ont depuis des générations une nourriture qui est parfaitement équilibrée à la fois au niveau du climat et au niveau du développement. C'est clair qu'avoir un croissant au petit-déj, ils s'en cognent.
Oui, bien sûr, oui, ça tombe sous le sens.
La nourriture, elle était équilibrée pendant un bon moment. Le problème, c'est qu'avec l'afflux de nourriture moderne et l'oisiveté maladive que tu trouves dans les îles, tu as une épidémie d'obésité dans Polynésie française. Enfin, si tu t'attends à tomber sur la petite vaïnée bien menue, bien sympathique, tu risques de ne pas la trouver sur place.
Tant qu'elle a 18 ans, ça va.
Il y en a quelques-unes, mais le problème, c'est ça, c'est que la génétique joue des sales tours après.
Bah ouais, en plus, c'est des populations qui ont tendance à faire du gras.
Ouais.
Ils ont été sélectionnés pour. Alors tu leur files le sel moderne et l'alimentation moderne pour pas cher qui vient par bateau, hein, et ça te fait mais des vraiment des monstres, y compris chez les gonzesses.
Ouais. Ouais.
Ouais, ben là justement l'auditeur parlait des actimel. L'actimel c'est un truc qui est rempli de bactéries qu'on donne aux porcs pour les engraisser. Pour faire du. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Donc là, on paye des taxes pour envoyer des produits, donc des actimel qu'on va vendre un peu cher parce que ça vient par avion, pour empoisonner les gens déjà, bon, qui sont déjà polynésiens, ils sont déjà gras comme des moines dès qu'ils bouffent un truc, dès qu'ils bouffent n'importe quoi en fait. C'est délirant. C'est amener la technologie.
Mais c'est fait en débit du bon sens, mais c'est.
Bah oui, bah,
c'est comme.
C'est la République.
C'est la République française. Ouais, ouais, il faut lire les mémoires de Lyautey, du général Lyautey, qui est un grand officier colonial, mais qui avait un état d'esprit qui était complètement en décalage avec l'état d'esprit républicain. Il n'était pas républicain d'ailleurs. Et à l'époque, il faisait des grandes tournées, donc là on est au 19e siècle, donc il devait visiter il passait par le Maroc, et ensuite il fallait aller, passer par toutes les colonies, et sur place, enfin au cours du trajet, très fréquemment, comme c'était un représentant officiel de la France, il était régulièrement invité dans les colonies britanniques. Et il y a des passages intéressants dans les mémoires de Lyautey, ou dans les témoignages de Lyautey, quand il compare les deux, parce qu'il dit. Voilà, les Britanniques savent coloniser, quoi. Ils savent coloniser, les Français, ils savent pas, quoi. Parce qu'il y a cet état d'esprit républicain, donc en fait égalitariste, quoi, où on essaye de plaquer...
Le jacobinisme voilà. Poussé jusqu'aux confins du monde.
Voilà, et on plaque sur des populations des modèles qui sont incapables de soutenir. Alors, vous savez, c'est un peu comme le soviétisme, c'est-à-dire que ça marche pas. Bah, pourquoi ça marche pas? Bah, c'est parce qu'on en fait pas assez, quoi, vous voyez. Et c'est la définition de la folie, quoi. Réitérer sans cesse des échecs en répétant les mêmes actes, c'est la définition de la folie, quoi. Et Lyautey a vraiment, enfin, je recommande pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, la lecture des mémoires de Lyautey, c'est intéressant. Et là, bah, on a un cas, en Polynésie, c'est frappant, mais on pourrait aussi parler de la Nouvelle-Calédonie, etc. Enfin, on a vraiment des systèmes qui sont, pas efficient, quoi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, et qui coûte beaucoup d'argent.
C'est-à-dire que les Britanniques, ils arrivent dans un coin à singes, et en fait, ils ont une approche différente, déjà parce qu'ils ne veulent pas en faire des Britanniques, et surtout, ils n'en attendent rien du tout, en fait. Ils savent de base que, de toute manière, ça va être une hiérarchie très, très, très prononcée, quoi. Alors que nous, on arrive, on voit des colonies de singes, et en fait, on est déçus. On est déçu parce qu'on a des espérances. On dit oui, bah, ils vont devenir tout à fait comme nous et puis il n'y aura pas de problème. C'est juste une histoire de génération et le temps va nous donner raison. Mais on est constamment déçu parce qu'on ignore la génétique, quoi. Les Britanniques n'ont pas ce travers.
Bah, c'est lié au fait que la Grande-Bretagne n'a pas connu une révolution comme la France. Donc ils ont gardé, somme toute, bon, bien que libérale, elle a quand même gardé. Pendant un certain temps, c'est moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas au 19e, elle avait gardé son aristocratie. Donc évidemment, un système aristocratique comme était l'Empire britannique était un système où on comprenait qu'il y avait une échelle entre les individus. Et encore à plus forte raison, quand on intègre le paramètre ethnique racial et culturel. Alors qu'en France, et comme tu le dis très bien, quand on arrive dans des coins à un singe, le réflexe des Français, c'est de faire du Rousseau. C'est d'émanciper, de libérer les nègres de leur négritude, vous voyez. Et il faut absolument les amener à ce qu'ils appellent la culture française, etc. Sauf qu'évidemment, c'est comme de mettre de la pisse dans du Bordeaux, quoi. Ça marche pas, quoi. Ça va pas vous faire un vin de qualité, quoi. Et c'est un peu toute l'histoire des colonies françaises. Ça a foiré, on en a parlé l'année dernière, dans l'émission précédente. Mais l'échec n'est pas clair pour tout le monde. Et c'est encore plus vrai sur les dom-toms.
C'est un réflexe, c'est typiquement français, quoi. Même les peuplades, les plus reculés, les plus vraiment les plus merdiques, si les Français arrivent à mettre la main dessus, ils voient un truc marron, oh génial, s'ils sont en extase, on va en faire un français, quoi. Le jour où les Français arriveront à faire décoller une fusée pour aller sur Mars, les Martiens voudront, voilà, on va en faire des Français, les Martiens.
Oui, il y a certes ce phénomène-là, mais il n'y a que ça, par exemple. Une des raisons, c'est que les lois concernant les colonies étaient décidées de Paris, de gens qui n'avaient jamais foutu les pieds là-bas. Après, il y a aussi, par exemple, dans le roman de Gérard Pince, hein, qui est aussi un économiste, qui s'écrit comme une pince, s'appelle La Pâle, donc c'est un roman qui s'inspire de la réalité donc dans les années 60, au Tchad, à l'époque de la décolonisation, où il y avait un certain nombre de fonctionnaires français, donc des Blancs, qui étaient sur place, qui étaient bien conscients des réalités raciales, mais qui avaient l'avantage et qui, du coup, communiquaient à Paris des informations faisant en sorte à chaque fois qu'ils les arrangeaient, c'est-à-dire que le pognon continue à arriver, que le pouvoir leur soit délégué, des gens qui se voyaient aussi une gloire, hein, à juste titre, je sais pas, mais en tout cas, dans les faits, ils avaient du pouvoir, ils avaient de l'argent, ils détournaient l'argent bien, bien comme il fallait, utilisaient les populations locales, enfin, certains représentants pour... Et dernière chose que je voulais dire, c'est que le fait de lâcher les colonies officiellement, ça ne veut pas dire totalement arrêter de les financer. On sait que justement le Tchad, récemment, c'était paru dans la presse, avait touché quelques dizaines de millions d'euros parce qu'ils ne pouvaient pas payer leurs fonctionnaires de la France, sachant que ce ne sera jamais remboursé. Madagascar, c'est la même chose. On sait qu'ils ont eu des chèques aussi. Donc sur le fait qu'il faut remettre en cause tout ça, il faut remettre tout à plat. Par exemple, à Mayotte, on peut très bien leur dire « Regardez les Comores à côté qui ont fait le choix de l'indépendance, vous voyez dans quel niveau ils sont. On va peut-être réduire certaines aides, peut-être pas. Après, on peut débattre, évidemment, je dis pas que j'ai raison. Mais, en tout cas, remettre en cause certaines choses.
Le problème que tu as, très, très prosaïquement, c'est que si tu fais ce type de déclaration, cette île explose. C'est-à-dire que ça se transforme en gigantesque coupe-gorge avec probablement beaucoup de morts. Donc, et le pouvoir politique français...
Mais pas forcément, MacDav.
Ah non, c'est...
Pas forcément.
C'est Gandalf qui parle.
Excuse-moi. Pas forcément. En fait, regarde, quand tu as eu l'indépendance de l'île Maurice, il y a eu une crise économique absolument effroyable. Qu'ont fait les Mauriciens? Ils se sont barrés partout à travers le monde. Ils ont fait du fric, ils sont revenus dans l'île. Regarde ce que devient Maurice en ce moment, à la grande différence de la Réunion, à la grande différence de Madagascar, c'est pas une île d'assistés sociaux, hein. C'est des gars, ils bossent. On a construit des chaînes d'hôtels partout le long des plages, on a développé le tourisme, les types se démerdent. Au contraire, quand tu dis « maintenant, on coupe les vivres, c'est terminé, démerdez-vous tout seul », ils n'ont pas d'autre choix que de se démerder.
Ah, mais je suis d'accord avec toi.
C'est pas arrivé aux Comores, cela dit. Aux Comores, ils sont toujours dans la très grande pauvreté.
C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que je parlais pas de donner l'indépendance. Moi, je suis favorable à ce qu'on donne, on redonne l'indépendance à Mayotte. Enfin, je veux dire, c'est un cas qui est indéfendable. Alors, je sais que Marine Le Pen croit beaucoup à la théorie de l'or bleu. N'est-ce pas? On est revenu sur Mayotte dans une émission précédente, donc je ne vais pas revenir sur les sommes énormes qu'on dépense là-bas. Macron s'est encore déplacé là-bas l'année dernière. Bon, il avait annoncé des ponts d'or, etc. Donc on sait ce que ça coûte. Donc moi je serais favorable à l'indépendance. Je me dis, si tu disais simplement, on va réduire les transferts, etc., il y aurait des violences. Il y aurait des violences. Indubitablement, quoi. Mais je tiens à ressouligner, c'est quand même important, que le Rassemblement National, de manière très, très vocale, hein, à la différence d'ailleurs de la gauche, hein, appelle à davantage de transferts financiers vers Mayotte, hein, encore plus à la faveur de la crise sanitaire du coronavirus. Marine Le Pen, là-dessus, répond toujours présente, hein. Ça, c'est très important.
Je tiens à souligner toute petite chose sur la région autour de Mayotte, etc. C'est qu'au Mozambique, on a découvert des champs gaziers énormes qui vont être exploités très bientôt, qui vont multiplier par 10 au moins le PIB du Mozambique. Et c'est Total qui a, parce qu'ils avaient racheté une société plus petite de pétrole et de gaz, qui a l'exploitation. Donc c'est pas encore, on n'en parle pas trop dans les médias, mais ça redistribue un peu les cartes sur la région, c'est-à-dire est-ce que ça devient moins inintéressant, si j'ose dire, de garder un espace dans la région, d'autant qu'il y a quand même une société française, même si évidemment c'est le pétrole qu'elle exploite et le gaz c'est à l'étranger.
Moi, je connais cet argument-là, mais c'est toujours, je veux dire, c'est toujours, parce que bon, l'idée, c'est quoi? Ils veulent ce caillou pour être au milieu du transit. Bon, alors ils ont toujours toute une série d'explications, mais c'est les mêmes explications que du temps des colonies.
Non, mais oui, c'est de la filousterie, ces explications.
L'Algérie a du pétrole. Voilà. Bon, c'est les Algériens. L'Algérie est un pays pauvre. À un moment donné, les matières premières, c'est une chose. Ce que tu en fais, c'en est une autre. Donc
Bien
nous,
sûr.
on est là pour créer de la richesse à partir d'un produit brut. On n'est pas des nègres qui sont là à être assis sur des trucs et puis bon, mais il y a juste à creuser pour vendre à quelqu'un. On est là pour transformer. On n'est pas, on sommes, vous voyez, même les Américains qui sont premiers producteurs de pétrole, leur pétrole, ça leur coûte un pognon fou pour l'extraire. Hein. C'est pas quelque chose qui sort du cul d'une poule. C'est pas un œuf.
Diabolix.
Le pétrole du Mozambique, on nous vend ce fantasme-là depuis les années 70, les gars. Depuis les années 70, on nous vend ça. Et jusqu'à présent, on nous a toujours pas trouvé, on n'a pas sorti un baril.
Non, mais même, de toute
Là, c'est le
façon.
gaz.
De toute façon, des réserves comme ça, je veux dire, le marché mondial, il n'y a pas de crise de l'offre. Il n'y a pas de crise de l'offre ni en gaz ni en pétrole. Je veux dire, c'est pas comme si la France
Surtout en
était,
ce moment.
oui, c'est pas comme si la France était, je veux dire, vraiment en mal de ressources. Et en plus, excusez-moi, Mayotte, c'est pas l'Arabie Saoudite. Enfin, arrêtez, il n'y a rien là-bas jusqu'à présent. Et c'est toujours très hypothétique de toute façon. C'est toujours pareil, quoi. Vous dites, oui, mais si, parce que c'est stratégique, parce que les décennies passent, vous voyez. Un truc comme la Guadeloupe, ça coûte 2 milliards et demi par an. La Martinique, ça coûte 2 milliards et demi par an. Bon, sur 10 ans, ça fait 25 milliards. Bon, 25 milliards d'euros pour un caillou. Moi, j'aimerais qu'on me dise où sont les retours. Et pas juste pour être à l'équilibre sur 10 ans, hein, sur une décennie. Pas pour retrouver 25 milliards, pas dépenser 25 milliards pour retrouver 25 milliards, mais dépenser 25 milliards pour en trouver 50. Ça ne se matérialise pas. Donc on dépense du pognon dans ces trous-là, on importe ces populations, le trop-plein de ces populations, on l'importe, et ça va se greffer sur l'autre immigration qu'on a déjà. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Et c'est toujours, on dit toujours, on est toujours en train de brandir cette histoire-là, truc. Et alors ça, à l'extrême droite, je parle de l'extrême droite institutionnelle, donc. Établis, donc les partis établis, alors là, on court derrière ce mirage, quoi. Je veux dire. Mais comme on courait exactement derrière les colonies, on allait créer une superpuissance française avec l'Algérie et tout. Oui, bon, non, non. Donc voilà, c'est bon. Alors évidemment, les volumes sont pas les mêmes, encore que vous avez qu'à regarder la natalité à Mayotte pour ne parler que de cette île-là. C'est une bombe à retardement démographique. Hein. C'est hallucinant, la natalité sur cette île. C'est hallucinant. Qui veut. Peut-être, on va peut-être revenir sur la Polynésie ou quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Pas
Moi.
spécialement. Vas-y, vas-y, Diabolix.
Alors, en fait, on nous apprend que la Polynésie, bon, ces gens mangent des chiens. J'aimerais revenir sur un petit souci, mais typique à la France et au département d'outre-mer. Dès que tu annonces qu'on mange des chiens, qu'on se sert de chiens pour la pêche ou autre, automatiquement, tu as la protection animale qui se met en place. Et que ce soit en Polynésie ou dans n'importe quel département d'outre-mer, c'est toujours le même cirque. C'est-à-dire que tu as une boumeuse blanche, généralement ex-enseignante, célibataire, parce que personne ne voudrait tirer ce genre de connasse, hein, qui décide de créer son association de protection des animaux en péril. Et à partir de là, c'est parti. Mais c'est jamais des locaux qui font ça, hein. c'est toujours nous. On a cette espèce de délire de protection animale à imposer dans des environnements où ces gens pratiquent leur culture depuis je ne sais combien de millions d'années.
Oui, et leur sacrifice aussi, accessoirement.
Et ça fait du fric, hein ?
Oui, ben j'imagine. Alors, on remercie Vercingétorix pour son courrier. J'ai découvert, sous un nouveau jour, la Polynésie. Peut-être qu'on aura d'autres échos de cette île, des réactions qui nous diront qu'il y a peut-être des choses à préciser. On verra bien. Je vous propose de passer à la rubrique numéro 2, autisme radical. Et nous allons aller à Marseille. Donc, vous voyez, en écho au courrier de notre auditeur, eh bien, nous allons aller dans la cité phocéenne, où cette semaine, l'actualité a concerné la police française. Alors, je vais vous lire un article du Parisien, qui s'intitule « Arrestation illégale et violente, prison ferme pour deux policiers à Marseille ». Deux policiers ont été condamnés mercredi en comparution immédiate à Marseille à 4 ans et 18 mois de prison, ferme, hein, pour l'arrestation illégale d'un jeune réfugié afghan, abandonné 30 km plus loin, dans un terrain vague, où il affirme avoir été frappé. Ils ont été incarcérés après le prononcé de cette condamnation pour enlèvement et séquestration faux et violence volontaire. Le troisième membre de cet équipage de la CRS autoroutière, une jeune femme, adjointe de sécurité, a écopé d'un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille. Le tribunal est parfaitement assuré de la loyauté, de la compétence, du dévouement de la police. Nous lui faisons confiance. Mais la contrepartie, c'est que cela ne peut pas souffrir de dérogation et de commission d'infraction, a déclaré la présidente Céline Ballerini. Des caméras de vidéosurveillance avaient filmé l'interpellation musclée de Jamshed, un Afghan de 27 ans, porteur d'un titre de séjour le 12 avril sur le Vieux-Port de Marseille. Les policiers qui intervenaient dans le cadre du contrôle du confinement le soupçonnaient d'avoir craché sur deux passants qui lui auraient refusé une cigarette. Il avait été projeté contre le véhicule de police après une clé de bras, puis placé à l'intérieur. Selon l'adjointe de sécurité qui a procédé au menottage, le chef de bord, le brigadier Michel Provenzano, 46 ans, s'est énervé à partir de là. Les fonctionnaires évoquent des doigts d'honneur et des invectives. Donc l'Afghan, visiblement, est très excité, les insulte, leur fait des doigts d'honneur, etc., vous imaginez. La première grosse erreur, c'est qu'on aurait dû laisser tomber et le laisser repartir, et on a décidé qu'il ne fallait pas qu'il reste là, a reconnu le conducteur Mathieu Coelho. Devant le tribunal correctionnel, où ils comparaissaient à l'issue de leur garde à vue dans les locaux de l'inspection générale de la police nationale, les policiers ont reconnu les faits, soulignant qu'en raison de la crise sanitaire, ils se seraient fait rire au nez s'ils avaient transporté le jeune homme devant un officier de police judiciaire pour outrage. « J'ai pété un câble, on a fait une énorme boulette », a reconnu Michel Provenzano. « On avait ce gars sur les bras, on ne savait pas quoi en faire ». Le jeune homme avait ensuite été transporté sur un terrain isolé à Châteauneuf-les-Martigues, à une trentaine de kilomètres de Marseille. Sur place, Michel Provenzano dépose dans le vide-poche ses lunettes de soleil et son arme de service pour ne pas faire de conneries, a-t-il déclaré au tribunal. Derrière une butte, le jeune Afghan aurait alors reçu un coup de poing ou une gifle, selon l'adjointe de sécurité, mais ces violences sont contestées par ses deux collègues. Une fois Jamshed abandonné, Michel Provenzano lâchera « Ça fait du bien, ça soulage », toujours selon l'adjointe de sécurité. Les deux hommes prennent alors la décision de rédiger un faux procès-verbal indiquant avoir laissé le jeune réfugié à l'hôtel de police. La peine de 4 ans de prison à l'encontre de Michel Provenzano est supérieure aux 3 ans requis par la procureure Virginie Tavanti, selon laquelle ces policiers n'ont pas été dignes de leurs uniformes. La peine de 18 mois de prison ferme infligée à son collègue Mathieu Coelho est quant à elle conforme aux réquisitions. Les 3 policiers se sont excusés auprès de la victime, à l'audience. Maître Nicolas Berthier, défenseur de Michel Provenzano, avait évoqué un quasi-suicide professionnel, appelant le tribunal à ne pas réduire ce policier à 33 minutes de folie hors cadre, après 20 ans passés dans les CRS sans aucun incident. Alors messieurs, donc voilà, un Afghan, un bougnoul, hein, un bougnoul d'Afghanistan, fraîchement débarqué et régularisé par la République, déambule sur le vieux port, en plein confinement, n'est-ce pas, crache sur les passants qui veulent pas lui donner une cigarette. Il est interpellé, contrôle. Le type, évidemment, les insulte, etc. Bon, on le plaque, on le met dans le fourgon, ça continue. Et là, les autres disent, bon, allez, on va le balancer à 30 km. Et, alors là, les avis divergent, mais il aura peut-être pris une gifle, voilà. En tout cas, selon la nana hein, de l'équipage, qui visiblement avait beaucoup de choses à dire. Ce que contestent les flics. Ils disent, non, bon, c'est pas vrai, bien. En tout cas, pour les magistrateux, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ce sont deux graves bandits de grand chemin en uniforme qui méritaient là de la tôle ferme parce qu'il fallait vraiment être très sévère, rendez-vous compte, pour avoir malmené de la sorte un Afghan, c'était vraiment, ça appelait une sanction. Alors qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je tiens à dire qu'on est toujours en train de gueuler sur le service des taxis à Marseille. Et là, pour le coup, le service a bien fonctionné. Hein. Donc, c'est ce qui s'est passé en fait, c'est que les flics ont joué le rôle de taxi, ils l'ont déposé plus loin.
Ouais.
Et donc pour ça, ils prennent 4 ans. Hein. Donc 4 ans.
Et un an et demi.
Je rappelle que donc très récemment, le jeune marin, l'agresseur du jeune marin, a pris 3 ans du coup hein, pour avoir rendu un mec handicapé à vie et alors, fait une petite tentative de meurtre. Voilà.
Ah, il avait fait 7 ans. Alors marin, oui, c'est le cas de ce jeune homme qui a été laissé pour mort et en tout cas gravement handicapé. Par un bougnoul, hein, voilà, qui un bougnoul qui s'en prenait à un couple. Il a voulu s'interposer, il a été violemment battu par ce bougnoul. Et effectivement, donc la condamnation était somme toute assez légère, parce que je crois qu'il a pris que 7 ans de prison ferme.
Et il y a eu cette semaine ou la semaine dernière une demande de remise en liberté qui
par
sera
le juge,
probablement
oui.
acceptée.
Oui, par le juge donc de l'application des peines, effectivement. Voilà, oui, donc c'était cette affaire-là que tu voulais mentionner, Pierrot, oui. Donc effectivement, ouais, ouais, ouais. 3 ans pour avoir brisé la vie d'un jeune Français, oui, et 4 ans pour avoir déposé un peu trop loin un Afghan, qui nous fait quand même l'honneur de venir vivre en France, quand même. Il faut savoir aussi être reconnaissant un peu.
Pour réciter du Victor Hugo, voilà.
Oui, en farci.
En tout cas...
Oui, et violer des gamins. Enfin, l'Afghan, il faut rappeler que sa tradition, la tradition primordiale de l'Afghan, j'ai envie de dire, c'est de violer des gamins qu'on habille en femmes.
Oui.
On les fait danser devant soi. Et puis, bon, vu qu'ils sont habillés en femmes, charrer, c'est permis. Hein,
tout à fait.
comme on dit chez les juifs. Mais bon, l'islam aussi est assez permissif. On peut le contourner. Donc, voilà, les Bachabazis, l'Afghanistan,
tout à fait.
Des populations de détraqués sexuels. Bon, ça va jusqu'à l'aide. C'est pas. C'est, comment dire, il y a dans cette région-là des animaux qui sont particulièrement portés sur des pratiques sexuelles très bizarres. Ça part de l'Afghanistan jusqu'à l'Inde. Et alors, tu as quand l'islam conquérant se met là-dessus, ça c'est vrai que ça multiplie les effets qui sont déjà là, mais racialement, c'est la race qui part en fait. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Je peux me permettre ?
Ah oui, vas-y, vas-y.
Moi, j'ai une seule réflexion, mais elle vaut son pesant d'or. Ces gens se sont retrouvés devant un magistrat qui leur a collé des années de tôle. À l'heure actuelle, chez les Gilets jaunes, les bras cassés, les jambes cassées, les yeux crevés, ça n'a pas emmené beaucoup de policiers en tôle.
Non.
Alors, je vais peut-être en faire hurler certains, mais en ce qui me concerne, ce qui arrive à la police française et à la police européenne en général, sincèrement, je m'en fous. Parce que je vois le nombre de personnes qui ont été handicapées à vie dans des manifestations où des gens souhaitaient simplement récupérer un niveau de vie honnête et normal. Alors là, les gars, ces mecs-là, on peut me les taper dans des goulags, me les foutre dans les fours, je n'en ai mais strictement rien à faire. Je ne verserai jamais une larme pour un flic.
J'adhère complètement à ce que vient de dire Diabolix.
Quelqu'un d'autre ? Non, pas particulièrement. Alors, bon, après avoir parlé un peu de Marseille, donc, hein, et de ces policiers qui ont pris du ferme, effectivement, gilets jaunes qui n'ont... Enfin, les policiers qui n'ont pas été poursuivis ni condamnés. À ce jour, enfin, poursuivis, il y a peut-être des plaintes qui sont déposées, mais j'ai pas l'impression que ça aille très loin. Bon, visiblement, les magistrats sont assez à l'aise avec ça. Alors, en revanche... Parce que l'affaire dont on parle, ça s'est passé en avril, hein. Donc, finalement, ça a pris un mois pour obtenir une décision hein, sur cette affaire-là. Hein. Bon, les gilets jaunes, ça fait un an et demi qu'ils se sont fait casser la gueule. Bon, il n'y a pas la même célérité, visiblement, de la part de la magistrature. Donc la magistrature sait consentir à des violences policières commanditées au plus haut niveau. Mais pas à toutes, si tant est qu'elles sont matérialisées, parce que j'ai pas l'impression dans ce cas-là, il y a des violences policières.
La magistrate là, nous fait son discours sur la moralité de la justice, qui fait confiance sur les airs qu'il n'y a aucune erreur de la part des forces de l'ordre, bon, c'est du bullshit. Hein, c'est clairement du bullshit. C'est-à-dire que bon, quand ces gens éclatent des yeux des jeunes filles dans la rue, ça va. Par contre, si... Par malheur, on a la mauvaise idée de perturber l'emploi du temps d'un nègre clandestin, enfin d'un nègre ou d'un afghan, c'est pareil, de métèque, hein, d'une race de boue indéterminée qui chie tout ce qu'elle peut manger en France. Là, ça va. Là, on peut s'indigner, on peut faire des grands discours sur l'état de droit, entre le droit, la justice, la répression, enfin les forces qui sont là pour
la morale,
oui, l'ordre moral. On est chez des sans oublier,
Derrick, que dans ce cas-là, l'inspection spéciale de la police va se faire un plaisir de transmettre un dossier aux petits oignons, aux magistrats. Tandis que quand un flic, avec un lance-grenade, éborgne quelqu'un, l'inspection spéciale de la police, il n'y a plus personne, le dossier est vide, il n'y a pas de témoin, rien du tout. Alors avec ça, pour que le magistrat fasse son job, bonne chance.
Bah, c'est de toute façon, c'est surtout au prorata de la qualité du profil ethnique du client. C'est-à-dire qu'il est très clair que le crime des gilets jaunes, c'est d'être très essentiellement des blancs appartenant aux catégories sociales les plus modestes. C'est ça, voilà. Donc à ce moment-là, vous voyez, là on peut être violent, etc. Et je pense que ce cas-là, ce qui vient de se passer, avec donc cette affaire-là, illustre en fait la préférence étrangère, qui est aujourd'hui un principe cardinal de la politique française, enfin de la politique d'État française. C'est très clair.
Tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que, en ce qui me concerne, qu'on ne me parle plus des malheurs de la police. Je ne supporte plus ça.
Alors moi, ce qui m'intéresse là, si tu veux, c'est pas la police en tant qu'institution, c'est la différence de traitement en fonction des victimes alléguées, ce que Derrick aussi a bien expliqué, c'est-à-dire que si tu es un blanc victime de la police, de violences policières objectives et même filmées, l'État ne bouge pas. En fait, il étouffe. En revanche, quand vous êtes un métèque, donc un migrant, hein, là, tout d'un coup, vous voyez, les droits de l'homme, les grands principes sont évoqués, la magistrature se mobilise, des peines exemplaires sont prononcées. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas tellement l'institution policière en tant que telle, quoi. Ça doit quand même donner du grain... Enfin, ça doit donner matière à réflexion, je pense, à un certain nombre de policiers, parce que c'est la démonstration par A plus B qu'on les prend vraiment pour des cons. Enfin, c'est que le gouvernement considère que ces gens sont des larbins, et qu'ils doivent faire ce qu'on leur dit, et puis si parfois il y a des incartades, bah, on s'en débarrasse, mais je veux dire, mais de manière très expéditive, on fait pas semblant d'eux, voilà, c'est... On y va, vous voyez. Et je crois que ça permet de voir, finalement, en quelle faible estime, en réalité, tient le système, cette police. Je crois qu'ils n'ont pas une grande estime, les policiers.
Enfin, s'il y a encore des flics qui n'avaient pas compris qu'ils étaient des larbins de l'État cosmopolite, c'est qu'ils ont des sérieux problèmes cognitifs, je pense. Hein. Ils sont là pour ça. Dans les années 70, ben, on va prendre Marseille là, parce qu'on est un petit peu dans le cas, enfin, c'est pas un petit peu, on est en plein dedans dans le cas là, qui est décrit. Mais dans les années 70, à Marseille, tu avais des Algériens qui disparaissaient parce que bon, les types avaient fait chier des gens, donc ben, ils disparaissaient du jour au lendemain, on les voyait plus, ils étaient partis. Hein, ou on sait pas, mais ils n'étaient plus là. Mmh. Et SOS Racisme est arrivé pour mettre fin à ça. Donc la police est venue mettre fin à l'ordre qui régnait. Hein, les forces de l'ordre sont venues mettre le désordre, en fait. Hein.
Ouais, d'accord.
Donc,
ouais.
Ça n'est pas étonnant qu'à Marseille, maintenant, on ait si tu as des forces de l'ordre qui ne font pas le désordre, bah, ils sont punis, c'est normal. Parce qu'ils sont, ouais. ils sont là pour ça.
Il y a aussi, excuse-moi Derek, le rapport qualité-prix. Ouais. Parce que, soyons clairs, le bougnoul qui a permis à un magistrat de coller 2-3 ans de tôle à un flic, quelque part, ça coûte que dalle. Par contre, si demain l'État français est obligé d'assurer une indemnisation pour quelqu'un qui a perdu un œil et ce, à vie, ça va coûter bonbon.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et dans le cas de... Quand il y a le parallèle avec les Gilets jaunes, il me semble que pour énucléer quelqu'un, donc on lui a envoyé une balle de LBD dans l'œil, les LBD, qu'on me corrige là encore si je suis imprécis, mais elles ont un viseur, c'est-à-dire que quelqu'un qui envoie un LBD dans l'œil, c'est qu'il a visé, donc c'est un
acte présumé
volontaire, donc criminel.
Ils ont le point rouge, ça vise très bien à la distance qu'on souhaite, c'est pas un hasard. Non, c'est pas hasardeux.
Non, pas avec cette fréquence, pas avec le nombre de blessés qu'il y a eu, ça peut pas être... Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 3, judéo-bolchevisme. Oui, le mot n'est pas trop fort, nous y sommes. Je ne vais pas revenir sur la dictature sanitaire dans cette première partie. On l'a quand même abondamment commenté. Donc, je pense que les Français, enfin ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, mesurent quand même la réduction drastique de leur liberté. Hein. L'État s'arroge le droit de contrôler désormais, quand bon lui semble, les mouvements de population. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler probablement à l'automne. Je ne serais pas surpris que tout ça reprenne. Peut-être qu'on abordera ça dans la deuxième partie. Mais ce n'est pas le seul volet. Vous savez, il y a donc la fameuse loi Avia, dont on a parlé plusieurs fois dans cette émission, qui, en fait, devait être débattue au Parlement, mais qui traînait un peu parce que c'était une loi qui commençait à susciter une assez nette opposition dans l'opinion et même dans des segments assez politiquement corrects d'habitude, qui trouvent quand même que là, Macron, sa clique, et l'État plus généralement, veut s'arroger des pouvoirs exorbitants de censure. Alors, on l'a appris cette semaine. Ça y est, la loi va arriver à l'Assemblée nationale en dernière lecture, donc elle va être votée, le 13 mai. Et il y a un article donc, du site internet Next Impact qui aborde ça de manière assez détaillée, et je vous le livre. Alors, cyber-haine, entre guillemets, hein, la proposition de la loi Avia en lecture définitive le 13 mai à l'Assemblée nationale. Surprise! La proposition de loi Avia sera finalement en lecture définitive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Le texte sera donc adopté en pleine pandémie de Covid-19. Et selon Cédric O, les décrets vont être pris très rapidement. La proposition de loi contre la haine en ligne qui avait été déposée le 20 mars 2019 à l'Assemblée nationale sera finalement en lecture définitive le 13 mai prochain. Selon Cédric O, lors de sa longue audition devant la commission des affaires culturelles, il s'agit maintenant de faire en sorte de prendre les décrets d'application au plus vite pour que cette loi s'applique. L'agenda parlementaire a été mis à jour en ce sens. Cet examen final est programmé à 15h. Dans ses grandes lignes, le texte tel que voulu par les députés modifie le régime de responsabilité des plateformes, autrefois soumises au seul régime de l'hébergeur. L'idée ? Les contraindre à retirer non plus promptement, mais en 24 heures, une liste de contenus manifestement rattachés à certaines infractions, et ce sous peine d'une lourde amende, 250 000 euros par oubli. Il s'agit de tout contenu, tweets, vidéos, images, etc., liés à une de ces infractions, je cite, « apologie des crimes d'atteinte volontaire à la vie, d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, etc. » Je pourrais citer tous les trucs, bon. Ce qui nous intéresse notamment, c'est ces passages-là, donc ce qui va tomber sous les fourches connues de la censure instantanée, là on est dans une échelle de temps de 24 heures, hein, et préventive, je le précise. Notamment, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Donc, antiracisme. Hein. Mais aussi, provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou ayant provoqué à l'égard des mêmes personnes aux discriminations prévues par les articles 225 alinéa 2 et 432 alinéa 7 du Code pénal. Je ne veux pas n'oublier non plus cet élément qui est cité par Next Impact, contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, négation, minoration ou banalisation des crimes de génocide, des crimes de réduction en esclavage, AA, et des crimes de guerre. Voilà, je pourrais continuer, hein, il y a d'autres, les injures à caractère racial bien sûr, mais il y a toute une série d'autres choses. Alors bref, vous avez compris, hein, c'est assez robuste. Alors l'article poursuit. Des signalements, l'intermédiaire devra théoriquement, donc en fait c'est la plateforme quoi, hein, devra théoriquement premièrement s'assurer que le contenu dénoncé se rattache à l'une de ces infractions, et deuxièmement que ce rattachement est manifeste. On remarquera que le texte déborde des contenus dits haineux, entre guillemets, puisque Twitter et les autres devront par exemple supprimer les propos à caractère pornographique en 24 heures s'ils sont susceptibles d'être accessibles aux mineurs. Au-delà de son noble objectif, je cite l'article, hein, qui est pour la haine, entre guillemets, le texte avait été vertement critiqué par de nombreuses organisations, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, la Ligue des droits de l'homme, le Conseil national du numérique, la République tchèque, ou encore la Commission européenne, ces observations révélées dans nos colonnes, laquelle s'est agacée notamment que la France fasse cavalier seul alors qu'un chantier européen est en cours. Ah. L'une des craintes récurrentes est que cette loi engendre de multiples atteintes à la liberté d'expression. Si les plateformes se retrouvent soumises à une obligation de retrait très rapide, il n'y a pas de sanction pénale en cas de retrait abusif. Plus précisément, ces sur-censures ne seront sanctionnées que dans le cadre d'une procédure devant le CSA. Donc en gros, si vous estimez censuré à tort, il faudra aller devant le CSA. Certes, l'amende administrative est cosmique, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros, mais c'est un maximum dû en cas de manquement extrêmement grave au regard d'une ribambelle d'obligations que contrôlera à l'avenir le Conseil supérieur de l'audiovisuel, nouveau gardien donc des contenus en ligne. Je précise que le patron du CSA, nommé par le président de la République française. Hein, donc c'est un poste éminemment politique. Ce qui n'a pas d'ailleurs empêché la France d'essayer d'agiter les instances européennes contre la Pologne pour avoir voulu faire exactement la même chose, c'est-à-dire contrôler la télévision par un fonctionnaire nommé par l'exécutif polonais. Bon, comme quoi...
Oui, mais télévision publique française oui. Fait des séries, produit des séries et des documentaires mettant en scène des enfants transsexuels qui vivent leur vie de manière tout à fait sereine dans la société.
Des programmes progressistes, on va dire ça.
Voilà, donc la Pologne n'ayant pas choisi cette voie-là du progrès par l'anus fissuré, n'a pas droit de choisir la voie qui est la sienne. Le progrès,
c'est à sens unique, il n'y a pas moyen de faire demi-tour, effectivement. Alors, en tout cas, vous avez compris, hein, si jamais vous vous sentez lésé par une sur-censure, hein, si on a censuré un de vos tweets, vous pourrez obtenir justice, il faudra juste remplir, quelques piles de dossiers.
Payer un avocat pendant quelques années.
Envoyer ça au CSA avec toute la rapidité qu'on peut attendre, bien sûr, etc., en sachant que les chances pour que ça aboutisse sont proches de zéro. Voilà. Et que tout ça est contrôlé, donc comme on l'a dit, par des juifs mandatés par Macron. D'accord, ça promet. Alors, je poursuis l'article. Et l'intermédiaire pourra échapper à cette sanction administrative, donc la plateforme, s'il démontre avoir mis les moyens humains et technologiques suffisants pour tenter de nettoyer son service. Avec cet équilibre subtil, le risque est donc de voir Twitter, Facebook, YouTube et les autres censurer à tour de bras, même des contenus gris. Ceux non manifestement rattachés à une des infractions afin de limiter le risque d'une amende prononcée par un tribunal. Le texte ne s'arrête pas là, puisque en dernière ligne droite, le gouvernement a injecté en son sein l'obligation de blocage administratif en une heure des sites pédophiles ou terroristes, contraignant les opérateurs petits et grands à être accessibles 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. Il prévoit aussi une obligation de filtrage des contenus haineux que pourra ordonner un tribunal outre le blocage de sites miroirs. Enfin, le texte accentue... On va revenir, attends. Oui. Le texte accentue le risque d'outing des mineurs LGBTI en raison d'une disposition juridiquement fragile. Les associations de défense contactées par un jeune victime de propos haineux devront en effet informer le mineur des suites, outre ses parents, selon des modalités adaptées à l'intérêt de l'enfant. Notre article avait provoqué la colère de Laetitia Avia sur les réseaux sociaux. La députée LREM nous avait accusé d'avoir usé d'un titre mensonger, outre d'une quête de buzz, ce alors que nous étions appuyés sur des dispositions défendues par la parlementaire. Bref, Derek, tu voulais rebondir sur un point particulier.
Oui, le fait là de comment t'as que je reprenne.
Les sites miroirs.
Ouais, donc tu avais d'abord les sites pédophiles ou terroristes, d'une part, et puis ceux qui, de l'autre côté...
En fait, dont le blocage aurait été décidé par un tribunal. Je ne sais pas à quel site ils le pensent, je ne sais pas.
Ben, c'est nous, en fait. Hein, cette loi a été pensée dès le départ pour nous, c'est pour ça que la France prend les devants par rapport à l'Europe, hein. La gestion européenne, parce qu'en France, il y a nous, on les fait chier. Hein, dès que nous changeons de nom de domaine, ça coûte beaucoup trop cher aux fournisseurs d'accès d'avoir à changer, à modifier leur serveur, leur DNS, etc. Donc bon, d'ailleurs, là, le site, pour l'instant, est en clair. Hein, donc le site passe très bien. Mais avec cette loi-là, En théorie, bien que personne, il n'y a pas eu de condamnation en justice, hein, pour démocratie participative, hein, aucune. Hein. Et je crois que tout ce qui a été entrepris a abouti à du non-lieu.
Non, pas exactement. Non, disons que c'était des comment dirais-je. Non, c'était un précédent juridique. En fait, il s'agissait de faire interdire le site sans loi. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas la loi. Parce qu'il faut savoir que le blocage du site décidé par le tribunal est illégal. Et il n'y a pas la loi, il n'y a pas de loi. Et en fait, ils ont décidé le blocage et ils font maintenant la loi pour valider a posteriori le viol des droits des éditeurs.
Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que personne sur le site n'a été... Enfin, il n'y a eu aucune condamnation qui a été...
Non, mais ils n'en ont pas besoin, je veux dire, c'est pas...
Oui, non, mais qu'ils en aient pas besoin. Mais... Imaginons même qu'ils en aient besoin, mais il n'y en a pas eu. Il n'y a eu aucune condamnation qui a été actée. Donc bon, c'est assez intéressant C'est qu'on va, on va condamner des sites, nous, le nôtre.
Le nôtre, ça, je tiens à souligner un truc, c'est... Ça commence par nous.
Oui, sa correspondance, ce sera les autres. C'est vrai que ça, c'est certain. Mais donc j'invite tous nos auditeurs là, qui sont là à déjà au minimum changer les DNS qu'ils ont sur leur ordinateur et sur leur smartphone.
Il y a des sujets sur le forum ELB.
Il y a des sujets sur le forum.
Il y a une partie informatique, il y a des choses à expliquer là-dessus. Voilà.
EELB.SU. Donc les DNS d'une part, et puis bon, idéalement ça serait quand même mieux de prendre un VPN.
Un VPN, ouais.
Mais,
ou Tor. Tor aussi.
Ou Tor, ou les deux. Voilà, au minimum, de toute manière, dans quelques mois, vous serez obligé de passer par les VPN, puisque l'État français contraindra les opérateurs à bloquer par les DNS le site internet, le nom de domaine du site. Donc voilà. Vous devrez passer par là. Mais oui, c'est bon. Cette sale négresse. On parle de la loi Avia, mais c'est la loi Taïeb. Hein.
C'est la loi Taïeb. Ouais. C'est le vrai nom de la loi. C'est Taïeb. Exactement comme la loi Guesso. Son vrai nom, c'est la loi Fabius.
Fabius, bien sûr.
Bien sûr.
Et donc Taïeb, qui est le vice-président du CRIF, qui a fourni clé en main le rapport. Qui était déjà un rapport.
Bah oui, un rapport juif.
Issu des officines internationales juives. Hein, c'était oui. Une définition de l'antisémitisme international. Et puis des recommandations.
Des ordres. Hein.
Des ordres. Ouais, les ordres donnés aux chambres législatives de tous les États occidentaux. De légiférer. Donc c'était le CAL. Oui, en fait, vous avez c'est le système législatif. Vous pensez qu'il y a l'Assemblée nationale qui vote les lois, il y a le Sénat qui est derrière. En fait, non, il y a le CAL d'abord qui crée les lois, qui les envoie à l'Assemblée nationale et au Sénat parce que les gens, ils sont là, on ne sait pas pourquoi, ils mangent beaucoup, ils sont gras comme des moines. Donc ça revient à l'Assemblée nationale et puis après, la synagogue valide et ça passe. Mais effectivement, le Kahal, hein, le tribunal juif, c'est lui qui est là pour donner le ton.
Hein, tout à fait. Oui.
Donne le la. Donc Taïeb a donné le la, il a dit, tiens, là, les goyim ont été confinés pendant que nous dorions la pilule à Eilat avec Meir Habib.
Tout à fait.
Ça, c'est une bonne occasion de faire passer plus rapidement des textes de loi pour qu'enfin nous soyons débarrassés de ces goïms qui n'acceptent pas Jéhovah, la République et la Shoah, ce qui est la même chose.
Alors, il y a un autre...
Derrick, excuse-moi, mais pour en revenir au merveilleux bal des faux culs, normalement, cette loi va passer dans les alentours du 20 mai.
Non, le 13.
Alors, le 13.
Ah. Ouais.
J'ai entendu une ribambelle de personnes me sortir, mais non, ça ne va jamais arriver, c'est pas possible, jamais. Et puis, de toute façon, il y aura un délai entre le moment où la loi sera votée et pour permettre aux entreprises de se mettre en ordre. Je tiens quand même à rappeler que depuis un mois et demi, que ce soit sur Twitter, Facebook ou YouTube, c'est la chasse complète à tous les sites. Donc, ces trois entreprises savent déjà que la loi sera votée et qu'elle passera. On est véritablement dans une atmosphère de faux cul complète, où ces gens sont parfaitement au courant de la politique qui va se mettre en place et ils sont déjà en train de la mettre en place. Donc, ne nous leurrons pas. On est parti vers une censure super hard, totale et sans aucune pitié.
Diabolix, je crois que ça fait à peu près un an qu'il y a un délire comme ça. C'est-à-dire qu'après le rapport juif Taïeb, nous on en avait parlé quand même assez tôt, hein, je pense, de cette histoire. Ça fait quand même un petit moment. Je ne saurais pas vous dire la date exacte, mais ça fait vraiment très longtemps. Et on avait dit, bon, bah, ils vont nous pondre une loi. Et puis ça va être commencé à discuter à l'Assemblée nationale, ce genre de truc. Et voilà, petit clin d'œil à tous les gens qui nous ont dit « Oui, attendez, DP, complotisme, ils en font des tonnes, ça n'arrivera jamais. » Et puis maintenant, on y est, quoi. Petit à petit, on y est. Donc là, c'est une question de jours. Voilà. Donc, les Juifs avancent leurs pions, hein, donc quelque part ils avancent à découvert. Hein, donc on a fait un peu que commenter ce que les Juifs disaient. Donc du coup, commenter les Juifs, ça devient antisémite. Bon, ça c'est un autre sujet. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que vient de dire Derek. Je valide totalement et je rajoute que si jamais il y a des gens qui veulent entamer des stratégies un peu, vous savez, des stratégies très alambiquées, tu vois, du genre, bon allez, nous, on va contourner le truc, on va sucer les Juifs. On va sucer les Juifs et ça va bien se passer pour nous. Finalement, ça concerne que des pays, les méchants nazis. Oui, bah si vous sucez les Juifs, je crois que cette semaine, il y a un truc qui est tombé. Si vous évoquez Génération Identitaire sur Facebook,
ouais.
À partir de maintenant, c'est comme si vous évoquiez Soral, c'est le même délire. C'est-à-dire que vous serez...
ou DP, d'ailleurs.
Le contenu sera supprimé, voilà, et vous aurez des sanctions. Donc, sucez les Juifs,
ou démocratie participative aussi, hein. C'est de la même façon, c'est censuré sur Facebook.
Alors, pour Génération Identitaire, c'est assez... rigolo. C'est-à-dire que j'ai eu vent de nombreux cas de personnes qui se sont pris des sanctions. Alors, ça fait plusieurs mois. Hein, que ça, là, il y a un article de Valeurs Actuelles qui est sorti cette dernière semaine ou la semaine d'avant. Mais en fait, ça fait plusieurs mois que ça sort. Et de nombreux camarades se sont fait censurer des posts qui dataient de 2014, 2015,
ouais,
2016.
Ouais.
Dans lesquels étaient mesures, d'un coup, ouais, votre poste, machin, contrevient aux standards de la communauté, mange-toi 30 jours dans la gueule, tu vois, bien bonjour.
Ouais. Les standards de la communauté, d'ailleurs, c'est marrant.
Oui,
effectivement, comme disait Pierrot, il y a eu ça avec Soral, c'est-à-dire que bon, certaines personnes, quand ils écrivent Soral directement dans un commentaire Facebook,
ouais.
Boum, ça, c'est, allez, 7 jours, enfin, si 7 jours si t'as déjà été. Si t'es très gentil avant, si t'es pas mangé plusieurs fois du 3 jours, du 7 jours, sinon 30 jours, sinon ton compte vire. Mais oui, n'écrivez pas Soral sur Facebook et n'écrivez pas Génération Unitaire, ces trucs-là sont interdits. Il faut pas. DP non plus, évitez, tournez la chose de manière. Faites des périphrases à chaque fois. Et voilà, si vous voulez rester sur les réseaux sociaux mainstream, il faut que vous vous avanciez par périphrase. C'est obligatoire. Sinon, vous ne survivrez pas.
Ouais, il y a toutes ces choses qui
sont pas. Et n'oubliez pas de remercier l'ambassade de Tchéquie auprès de l'Union européenne.
Oui, pourquoi pas. Alors, mais je voulais souligner un point. Alors, il y a. Moi, je suis quand même curieux de voir, parce que bon, on a vu l'efficacité du gouvernement français à la faveur de cette crise sanitaire. D'ailleurs, je souligne que les Juifs profitent de la crise sanitaire pour. Essayer de retirer de nouveaux bénéfices politiques et d'imposer donc leur censure instantanée. Voilà, bon, je pense que ça se suffit pour savoir à qui on a affaire. Je serais quand même curieux de voir l'application réelle, l'application concrète. Au vu de l'efficacité du gouvernement français, ça risque quand même d'être assez drôle. Bon, ça sera mis en place, hein, mais ça risque d'être assez cocasse dans sa mise en place, parce que théoriquement, il ne peut plus rien avoir de potentiellement politiquement incorrect sur la toile. C'est ça que ça veut dire, parce qu'avant et jusqu'à présent, vous pouviez dire quelque chose, enfin, entre guillemets, vous pouviez dire quelque chose d'illégal, si vous voulez. Je sais pas, nier l'existence de chambrage ou que sais-je. Bon, ça relevait des tribunaux, c'est-à-dire que votre propos, il était mis en ligne, par exemple. Et vous pouviez être jugé sur ce propos, mais par un tribunal. Or, la nouveauté, bien sûr, c'est que la censure est instantanée. On essaye, on se débarrasse du... Enfin, en tout cas, pour le quidam, on se débarrasse du processus judiciaire, parce qu'on veut aller vite, on veut aller très vite. Donc, il faut que ça soit... ça se matérialise. C'est-à-dire que la censure, elle doit se matérialiser. Donc, en théorie, pour que ça soit une censure crédible... Il faut qu'elle s'applique sur la totalité de la toile. En tout cas, sur 99% de la toile. Or, imaginez ce que ça va donner quand vous aurez des pages sur un réseau social comme VK, où on sait qu'il n'y a pas du tout le personnel nécessaire pour faire le flicage qu'ils demandent, etc. Parce que c'est un réseau russe, etc. Ils ont...
Ça y est, quand même. Hein.
Oui, il y a de la censure, mais je veux dire, de pouvoir répondre dans les 24 heures, donc, bon... Ça risque d'être assez drôle. Ensuite, vous avez des hébergeurs, tout court. Alors, des gens qui vont avoir des sites qui sont en Grande-Bretagne, des sites qui sont, je ne sais pas, hein, à travers la planète, etc. qui vont se faire interdire, etc., mais qu'on pourra quand même accéder au VPN. Bon, vous allez voir que, très rapidement, parce que les Juifs ne vont pas s'arrêter à ça, une fois qu'ils auront leur loi, ils vont découvrir quoi ? Qu'il y a énormément d'utilisateurs de VPN qui ont compris qu'il fallait s'en doter pour pouvoir accéder à l'information, hein, et qui vont donc, les Juifs vont pas être contents. Donc ils vont dire, il faut interdire la vente de VPN en France. Vous allez voir, ça va être une thématique qui va prendre corps dans les mois à venir, sinon les années à venir. C'est qu'ils vont demander l'interdiction des VPN, quoi, la commercialisation des VPN. Ils vont dire, c'est scandaleux, truc, vous pouvez pas... Bon, voilà, mais on les contraint quand même, collectivement, à mettre la barre toujours plus haut. Pour revenir à ce que disait Pierrot, c'est très juste sur l'histoire de la complaisance à l'égard des Juifs. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. C'est-à-dire que Génération Identitaire a toujours eu pour politique de ne jamais écorner le pouvoir réel qu'est le pouvoir juif. Bon. Parle d'immigration, parle d'islam, parle même maintenant pratiquement que d'islam. Ce qui est un problème, hein, je ne le nie pas, bien évidemment, c'est évident. Mais, bon, en se disant, ouais, mais comme ça, on n'attire pas trop l'attention des ligues juives et du gouvernement. Bah, non, c'est-à-dire que le pouvoir juif est un pouvoir cosmopolite qui entend bien faire appliquer la totalité de son idéologie cosmopolite, qui est consubstantiellement anti-blanche et remplaciste. Donc, pour ces gens-là, le seul fait de contester les effets de l'idéologie cosmopolite sans remonter aux causes nécessairement, ça suffit à être un ennemi du pouvoir juif. Voilà, donc vous êtes frappé au même titre. Donc cette espèce de finasserie-là ne m'a pas convaincu et ne me convainc pas davantage. Et bon, bah, le cas avec Génération Identitaire est tout à fait évident. Hein. Je veux dire, voilà. Vous êtes censuré au même titre, vous avez la même... voilà, c'est la même chose. Vous êtes mis dans le même panier, voilà, ça change rien. Je pense qu'il y aura... Alors, ça va se faire progressivement, mais une fois que cette censure se sera pleinement déployée, on va voir des sites qui, jusqu'à présent, s'en sortent encore, passer à la trappe. Hein. Voilà, parce que ça sera purement et simplement... ça sera de l'arbitraire complet. Donc voilà. Et il y a des gens qui vont aussi disparaître des réseaux sociaux, hein, qui jusqu'à présent y ont échappé, mais ils vont vraiment disparaître des réseaux sociaux. Ça me paraît clair. Donc voilà. Donc, bon. La loi Taïeb Avia.
Entre... C'est toujours les mêmes ficelles. Hein. Ça fait quand même un petit moment que pour essayer de censurer peu tout et n'importe quoi, les Juifs utilisent... les appels au meurtre, je sais pas si... Attendez, trouvez-nous un seul truc de DP qui appelle au meurtre directement.
Ils utilisent la censure. Ils utilisent la censure, Shapiro. Ça date du décret Marchando. Hein. Tout à fait.
Non, mais les grosses ficelles du genre le terrorisme, la pédophilie et tout, moi j'invite les gens à aller sur Google. Là. Vous tapez le terme pédonazi, tout attaché. Vous verrez que dès les années 90, vraiment, dès les années 90, plein d'assos, un peu bah, toujours les mêmes que maintenant, hein, engageaient tout un tas de poursuites, en fait, de procédures pour appeler une censure massive d'Internet parce que des pédos, des nazis, ce que vous voulez. Et du coup, à la fin, c'est juste, bah, finalement, vous avez le droit juste de fermer votre gueule, quoi. C'est ça. Ça date des années 90.
Bah, récemment, vous avez vu ça dans la presse. Il y avait un nom. Alors, aux États-Unis, vous avez le premier amendement. Bien. Donc, le gouvernement ne peut pas intervenir directement comme en France. Où la politique de l'État, bah, c'est l'esprit de la loi Avia, c'est de censurer activement la population. Donc, je le dis, avec l'avènement de la loi Avia, bon, la liberté d'expression n'existait déjà plus depuis bien longtemps, mais alors là, vraiment, c'est matériel, c'est visible, c'est incontestable, ouais, donc la liberté d'expression n'existe plus en France. Donc, au moins, c'est clair, bien. Donc, et ça se couple aux autres mesures de contrôle des populations dont on a souvent parlé. Mais aux États-Unis, il n'y a pas ça. Alors, en fait, c'est simple, ils passent simplement directement par les plateformes qui prennent des mesures proactives pour censurer. Et c'est ce qui s'est passé avec GoDaddy pour un site qui appelait à un concours de Miss Hitler. Vous avez vu ça ? Miss Hitler 2020. Oui. Alors, Miss Hitler 2020, c'était évidemment un sketch. On demandait à des jeunes femmes d'envoyer des photos d'elles avec des croix gammées, des trucs. Bon, c'était un sketch, c'était un pastiche, évidemment. Bon, mais ça a suffi pour faire hurler les Juifs. Et qu'est-ce qu'ont utilisé les Juifs comme argumentaire auprès de GoDaddy ? Ils ont dit, mais écoutez, c'est très simple. c'est un appel au meurtre. Et du terrorisme. Alors là, vous allez me dire, quoi, je comprends pas, des gonzesses qui se mettent avec, je sais pas, des croix de fer ou des machins, c'est quoi le rapport, quel rapport avec le terrorisme? Bah, le rapport, c'est les juifs qui le font, c'est tout. Voilà, et ça suffit. Et c'est ce qui s'est passé, donc aux États-Unis, on a fait sauter un nom de domaine, donc il a été séquestré, ce nom de domaine a été saisi, pas tout à fait illégalement, hein, sur, c'est du bricolage, hein, sur demande des juifs, parce qu'on a dit, ah oh bah ouais, mais comme des jeunes femmes qui rigolent avec des croix gammées, ou qui font des saluts hitlériens, ou que c'est un appel au meurtre. Bon. Ces gens arrangeront tout ça comme ils voudront. Les excuses, ils les ont, vous en faites pas. Et voilà, on est dans la phase de censure complète. C'est clair. Et c'est plus avancé évidemment en Europe et surtout en France qu'aux États-Unis. Mais les États-Unis suivent aussi à leur façon, quoi. Mais en France, c'est vraiment bien avancé. Je me rappelle, on en parlait même ici. Bon, il y avait Christophe Barbier, vous savez, cette espèce de clown là, avec son écharpe rouge là, qui intervient régulièrement sur les médias, qui est vraiment la voix du pouvoir, enfin, vraiment un laquais. Je ne me lasserai jamais de rappeler qu'il est marié à une Kumar Cohen. Barbier avait dit, j'ai plus l'année en tête, il avait dit que si la Chine parvenait à censurer l'Internet, somme toute,
on pouvait le faire aussi.
L'Union européenne et la France devraient pouvoir quand même, bon an, mal an, y parvenir. C'était du domaine du possible. Je ne vais pas rentrer dans la discussion technique que ça impliquerait, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'Internet chinois a été construit sur la base de la censure, dès l'origine. C'est-à-dire, l'Internet est apparu en Chine avec la censure, donc il a été construit comme ça. L'Internet européen a été construit d'une manière totalement différente. Donc, ça promet d'être plus drôle, on va dire. Mais on y est. Voilà, 4-5 ans après, voilà. Parce que ces gens en parlaient activement entre eux. Barbet, dans ses dîners en ville, avec tous les pontes du journalisme, tous les pontes du CAC 40, tous les politiciens, les organisations juives, ces gens-là, il y en a marre, hein, y a des goy qui parlent sur Internet, il y a des gens qui font des vidéos YouTube, il faut que ça s'arrête, vous voyez, ça leur a donné des cauchemars. Ça a pris le temps, hein, il a fallu quand même marteler ça dans la tête des goy, hein. Il a fallu leur dire, hein, bon, ben là, il va falloir sévir, parce que quand même, l'Holocauste, le truc, le vide, et voilà, et ça y est, voilà, bon, 13 mai, et ben on y est, voilà, le 13 mai, on y est, et comme les juifs sont particulièrement vicieux et lâches, ils ont mandaté une négresse pour faire le boulot, c'est-à-dire que si jamais il y a une embrouille, parce que si jamais ça devait mal tourner, parce qu'on sait jamais, il faut que ce soit un goy qui passe à la caisse. Ouais,
enfin, c'est... Non. Enfin, un goy, non. Enfin, pour être un goy, il faut quand même être un humain. Quoi.
Oui, je vois ce que tu veux
faire
dire.
Faire une négresse.
Ouais.
Et est-ce que tu permettrais quand même...
C'est-à-dire que le juif, pour mettre en place sa suprématie, bien qu'il revendique, ne met pas les mains dans le cambouis pour signer le crime. Ils mandatent des babouins qu'ils ont recrutés au passage, ce qui dit d'ailleurs tout de ce qu'ils pensent en réalité de leurs auxiliaires raciaux. Hein. Je veux dire, faut pas rêver, hein. C'est tous ces juifs de la haute société ne tiennent pas en très grande estime toute la négraille. Hein. Faut pas se mentir. Hein.
Mais, cher Gandalf, je te ferai remarquer qu'au début du confinement, il y a maintenant presque 2 mois, mm-hmm. hein, mi-mars, la négresse cannibale,
oui.
Liputu Avia, avait terrorisé une de ses collaboratrices partie en confinement.
Je crois que c'était en congé, ou à l'étranger en tout cas, ouais.
Non, pas l'étranger,
pas l'étranger.
Dans le sud de la France,
c'est-à-dire
au soleil, parce que c'était une collaboratrice qui était atteinte de maladies auto-immunes, hein, qui s'est éloignée de ce cloaque, cet enfer racial, biologique et viral qu'est Paris et sa région, et elle avait harcelé, littéralement, la menaçant de la dévorer, ouais, quasiment, pour revenir et
oui.
Participer à
ce
la
rédaction
de
la loi.
Parce que, oui, parce qu'elle avait nié, alors que bon, il y
avait les courriers et tout. Hein,
ouais. Oui, les courriers, etc. Bon, ces gens-là, non, enfin, ces gens, les nègres n'ont aucune espèce
De probité bon, intellectuelle,
de
oui, je suis.
De
oui,
probité, voilà, il démente malgré les preuves qui sont en face d'eux. Le nègre ne rougit pas par définition, c'est un nègre. Hein. Et on comprend maintenant pourquoi, il y a maintenant 2 mois, ce quadruman qui siège à l'Assemblée nationale poussait ses collaborateurs malades.
Oui, à revenir, ouais, à venir absolument. Ouais, ouais.
Pas à venir, surtout les faire venir, les avoir. Ouais, elle voulait l'avoir sous son emprise pour la faire travailler, parce que cette négresse est absolument... Enfin, c'est une négresse, donc le négresse, ça mange, ça dort et ça chie. Hein, ça ne peut pas faire autre chose. Et c'est effectivement comme une vidéo d'un camarade qui a été partagée sur le site. Oui, le nègre, quand il est en position de pouvoir, il aime bien mettre en esclavage les blancs qui sont...
Oui.
Qui sont sous sa main. Donc, elle a voulu jouer à la négrière, hein, la négrière envers la blanche, réfugiée dans sa famille, et qui est une blanche qui est probablement dégénérée, puisqu'elle a des maladies auto-immunes, donc son organisme ne veut plus d'elle, hein, son organisme veut la tuer. Mais bon, bref, c'est encore une autre histoire. Voilà, on comprend le fanatisme qu'il y avait il y a 2 mois, parce que il fallait coûte que coûte que l'on contraigne l'internet, que l'on contraigne la liberté des blancs à dire du mal des nègres. Eh bien, cher, pas cher, je sais pas trop quel terme utiliser, mais espèce de sale guenon avia, nous ne te lâcherons pas. Tu auras beau faire passer toutes les lois que tu veux, ou que les juifs veulent, mais nous continuerons à décrire la réalité, et en particulier la tienne, ta réalité physique, psychique, et ta réalité essentielle. Hein. Tu es une sale négresse.
Et à vous, mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Je vous remercie.
Compte là-dessus, négresse.
Mais tu vois que, comment dire, parce que les nègres souffrent d'un formidable complexe d'infériorité face aux blancs, ça les rend malades, c'est pour ça que la moindre blague, le moindre trait d'humour à caractère raciste de la part d'un blanc les met dans un... Ça me fait marrer, ils disent toujours, la fragilité blanche, faites une blague raciste à un nègre, vous allez voir des millions de nègres se mettre à convulser, enfin, je veux dire, ce sont des gens qui sont... totalement insécure.
Des gens
Oui, voilà, les créatures qui ont une très faible estime d'eux-mêmes. Et pas du tout d'assurance ni d'aplomb quant à ce qu'ils valent vraiment. Hein. Et donc, ces gens, évidemment, ont besoin de répression. Et en cela, le juif obtiendra toujours ce qu'il veut de ses nègres. Parce que le nègre, lui, veut simplement que le blanc rampe. Devant le potentat nègre, et donc voilà, si le juif lui propose les moyens de le faire, il le fera, et ensuite il servira obséquieusement son maître juif. C'est ce qu'on voit tout le temps. D'ailleurs, le nègre affectionne tout particulièrement le fait de servir les sémites en général, hein, et pas uniquement les juifs. Le nègre aime se place naturellement d'ailleurs sous les autorités de l'arabe, hein. L'arabe étant d'ailleurs lui-même un esclavagiste né, comme vous le savez, quoi.
Bien sûr, oui, les Arabes ont une grande tradition de l'esclavage des nègres, enfin, c'est un esclavage qui a toujours lieu, hein, soit en Mauritanie ou même des coins comme le Liban, où tu as des Libanais qui vont chercher directement des nègres en Mauritanie ou dans d'autres coins de l'Afrique. C'est, voilà, ils tiennent les passeports. Bon, oui, les Arabes aiment jouer avec les nègres, en fait. Hein. Ouais, ils aiment, ça leur plaît. Mm. Mais c'est vrai que le nègre, oui, lui, il n'a qu'une haine, c'est la haine envers le blanc.
Ah oui, le blanc, hein, oui, oui, oui. Je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 19. Nous allons commencer avec la rubrique numéro 4, Faits méconnus, une rubrique que j'aime bien de temps en temps, pour parler de choses qui sont, bah, comme c'est dans le titre, ne sont pas connues du grand public. Alors là, c'est la presse israélienne qui s'est fait l'écho d'un truc assez anecdotique mais rigolo. En fait, c'est très important, mais c'est anecdotique au sens où ils en ont pas fait des tonnes, mais c'est un entrefilet dans la presse israélienne. C'est cité par le site nationaljustice.com. Et voici ce que ça dit. Un historien israélien découvre que le chiffre de 6 millions de victimes de l'Holocauste a été inventé lors de la conférence, lors d'une conférence en Israël en 1944. Joël Rappel, directeur des archives Elie Wiesel de l'université de Boston et historien de l'Institut de recherche sur l'Holocauste de l'université Bar-Ilan, a découvert l'origine du tristement célèbre chiffre des 6 millions de juifs tués, allégué hein, donc sous le Troisième Reich, etc. Donc, il a été formulé pour la première fois en 1944 lors d'une réunion d'organisations sionistes pionnières dans ce qui est maintenant connu sous le nom d'État d'Israël. Pendant des années, les tenants du discours officiel sur l'Holocauste ont soutenu que ce chiffre était apparu pour la première fois au procès de Nuremberg à partir du témoignage largement discrédité du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss. Le chiffre de 6 millions a été répété par Adolf Eichmann, qui a été kidnappé par le Mossad et forcé de participer à un procès-spectacle télévisé en Israël en 1962. Selon des documents des archives sionistes centrales, la première mention de la réclamation des 6 millions a été faite lors d'une réunion de personnalités politiques sionistes de haut rang en Palestine le 19 janvier 1944, plus d'un an avant la fin de la guerre en Europe et la possibilité de faire un recensement, et un an avant que l'armée rouge n'entre à Auschwitz. Joël Rappel désigne Elitzer Unger, un juif polonais, qui a aidé à diriger l'organisation religieuse sioniste de la jeunesse de Hachomer Hadati, comme la figure principale dans le développement du recensement des juifs tués par les nazis, entre guillemets bien sûr. Unger prétend s'être échappé de son ghetto polonais en passant par l'Europe de l'Est. Après son arrivée en Palestine, il a déclaré son intention de choquer le monde entier, l'humanité tout entière et nos frères, les enfants d'Israël en particulier. Unger n'avait aucune preuve de ce qu'il disait, mais il ne croyait pas que les affirmations du rabbin Stephen Weiss dans les médias internationaux en 1943, selon lesquelles 2 millions de juifs avaient été tués, avaient eu un impact suffisant. Après que Unger a rencontré ces groupes juifs et les a tous mis sur la même longueur d'onde, Haaretz, donc le journal, a publié quelques jours plus tard un petit article qui pour la première fois faisait figurer le chiffre de 6 millions de morts, précédant les chefs militaires allemands dont les aveux furent obtenus par la torture après la guerre. Il semble que Unger n'ait pas mentionné les chambres à gaz homicides. L'article de Haaretz termine ses révélations en citant le procureur en chef d'Eichmann, Gideon Hausner, qui a déclaré à propos du chiffre de 6 millions, je cite, « Dans la conscience de la nation, le nombre de 6 millions est devenu sanctifié. Il n'est pas si simple de le prouver. Nous n'avons utilisé ce nombre dans aucun document officiel, mais il est devenu sanctifié. » En d'autres termes, c'est un mensonge. Après des décennies passées à assassiner, emprisonner, attaquer à la bombe et ruiner les chercheurs révisionnistes de l'Holocauste, il semble que la communauté juive soit maintenant obligée de recalibrer son récit et de céder de plus en plus de terrain. Le fait qu'il commence maintenant à concéder que les 6 millions ne sont rien d'autre qu'un chiffre produit par la propagande sioniste est un coup majeur porté au mythe. Alors, je suis sûr que vous aurez des choses à dire sur le chiffre des 6 millions.
Oui, oui, oui.
Oui, oui, bien sûr. Mais disons que, pour ce qui concerne cette affaire donc, de chambre à gaz homicide, on découvre que en janvier 1944, donc en janvier 1944, la guerre va encore durer pendant plus d'un an, hein, presque un an et demi, plus d'un an, eh bien il y a déjà le chiffre définitif du nombre de morts, du nombre de juifs tués, alors qu'ils ne sont pas tous tués, évidemment, hein, il y en a, oui, c'est quand même étonnant. Qu'est-ce que vous voulez dire de ces révélations, en plus de ces confessions, parce que là, c'est une source officielle, vous avez compris, ce sont des sources juives qui disent voilà.
C'est-à-dire que oui, on en est au point où les Israéliens se disent oui, non, quand même, parler de 6 millions de juifs gazés à l'insecticide, c'est quand même un petit peu fort, hein, c'est pas très crédible. Alors qu'en France, nous avons une loi qui, si tu minimises les conclusions officielles, donc qui sont ouais. que effectivement 6 millions de juifs ont été gazés au Bégon. Par Adolf Hitler dans des camps de la mort, tu risques d'aller en prison. Donc,
ou tu vas, non, tu vas en prison, à l'instar de Vincent Renoir. Oui. Ouais.
À l'instar de Vincent Renoir. Tu vas effectivement en prison. Donc, enfin, rendez-vous compte un petit peu de la dystopie dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que les juifs. Qui sont juifs pour le coup, qui n'ont pas, qui n'ont pas à être coupables de s'être tués eux-mêmes, hein, entre guillemets, ont une parole qui est plus libre qu'en
que
France.
Oui, que les goïms dans les démocraties occidentales, effectivement.
Que les goïms dans les démocraties occidentales, qui sont, qui ont le poids, qui ont la menace. De se faire embastiller par leur propre pays quoi. Mmh. C'est parfaitement dystopique comme c'est une dystopie assez intéressante où le bourreau admet lui-même que le menteur admet oui non mais ce mensonge que nous professons depuis des années était effectivement un mensonge. Mais nos affidés doivent continuer à propager le mensonge parce que ça nous
intéresse, tout à fait, bien sûr.
Voilà, nous sommes en 2020, cher ami, vous devez être les esclaves des juifs, les esclaves des mensonges juifs. On est dans la superstition la plus totale, hein, c'est absolument délirant.
Oui. Très intéressant dans cet article, c'est que un des magistrats qui a entre guillemets jugé Hachman, c'était pas un jugement, c'était une séance typiquement juive de mise en scène, de vengeance hébraïque. C'était ça rappelait un peu le procès du Christ, hein, je dois le dire. Par bien des égards, il y avait de ça. Hein. C'est que donc Gideon Hausner. Il le dit lui-même, ouais, vous savez, ce chiffre, on l'a pas utilisé dans les papiers parce qu'on peut pas le prouver, vous savez, on peut pas prouver qu'il y a eu 6 millions de morts, etc. Mais il est sanctifié, alors bon, vous comprenez, voilà, etc. Écoutez, si même le magistrat qui a jugé Eichmann, donc qui a été mandaté pour exécuter l'ancien officier SS, Adolf Eichmann, confesse que le chiffre ne peut pas être démontré, je sais pas ce qu'il faut de plus, je veux dire, je sais pas ce qu'il faut de plus, bon. Mais on a d'autres choses, et notamment cette révélation, qui fait qu'en fait, oui, c'est une création totale de la propagande sioniste, qui, pour des imp... je pense d'ailleurs, c'est assez précis dans le truc, hein. c'est déjà en vue des réparations, hein, c'est de pouvoir réclamer des réparations ultérieurement, etc., hein. Ils sont en train de monter des dossiers, il faut des volumes, mais c'est ça, très intéressant quand même, hein, très intéressant. Qui veut préciser une chose là-dessus, sur ce chiffre de 6 millions? Je sais que vous avez des choses à dire sur ce chiffre.
Oui, Paul Racinier était un des premiers donc, qui avait été déporté à Buchenwald, hein, qui n'était pas un juif, mais qui était un communiste. Paul Racinier qui avait écrit... notamment le mensonge du lit, il avait dit qu'il y avait probablement entre 1 million et 1 million et demi de morts dans les camps, toutes ethnies confondues, je crois. Et alors que, bon, bah, Forisson était descendu encore beaucoup plus bas, mais il s'était basé sur le premier témoignage de ce survivant des camps.
En précisant après, que les morts en question étaient généralement des gens qui sont morts dans les derniers temps, de privation complète qui s'abattaient sur l'Allemagne, donc il y avait très peu de nourriture, pas de médicaments, une promiscuité énorme et des épidémies dévastatrices, quoi. Donc,
dans des coins, dans des temps où on avait du mal à nourrir les soldats du front de l'Est.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et plus que du mal, en fait. Hein. Et je pense que des déportés ont dû manger plus gras que des soldats du front de l'Est. Hein.
Mmh. Donc bon, il faut. J'exclus pas, bon, évidemment, ici ou là, je veux dire, des mesures contre tel ou tel. Enfin, je veux dire,
quelques brimades à droite à gauche.
Oui, oui, c'est possible, non, mais je l'exclus pas.
Des cas particuliers.
Oui, oui, bah, surtout dans un contexte de guerre mondiale apocalyptique où, je veux dire, c'est bien vraiment. Sûr. Bon, avec l'avalanche bolchevique. Hein,
mais, mais la plupart, comme tu l'avais rappelé il y a quelque temps, sont morts parce qu'on leur a donné une pelle. Hein.
Oui, non, mais tout à fait. Non, mais je veux dire, il y a pour beaucoup de Juifs, ça a été un choc non seulement culturel, mais un choc physiologique. Ils ont pas tenu. Ils ont pas tenu. Bon, ils sont avocats, ils sont médecins, ça trust. Bon, voilà, ils échangent sur les places boursières et tout d'un coup, du jour au lendemain, ils agiotent, on leur demande de faire un travail manuel. Bon, crise d'apoplexie. Bon, voilà, c'est une chose aussi qu'il faut comprendre. Hein. Il faut intégrer ça dans les paramètres. Alors, sur ce chiffre de 6 millions, moi, ce que je veux retenir, c'est que, d'ailleurs, ça a été bien abordé sur le forum elb.su. Il y a des différents participants qui ont amené des éléments là-dessus, des coupures de presse. C'est un chiffre qui est utilisé par les Juifs, par la propagande juive, depuis la fin du 19e siècle, au moins.
Oui.
Au moins. C'est un chiffre qui était très fréquemment utilisé dans la presse juive en Amérique du Nord, quand il s'agissait de lever des fonds pour aller pour les œuvres caritatives, le rabbin avait besoin d'argent, donc on appelait, on clamait aux persécutions tsaristes, aux pogroms, etc. Et le chiffre de 6 millions revenait très très fréquemment. Même après la Première Guerre mondiale, on disait déjà, oui, 6 millions de morts, etc. Donc c'est un chiffre qui était très fréquemment utilisé dans les organisations juives internationales.
6 millions de juifs sont en train de mourir en Prusse, etc.
En Russie, oui, c'était en Russie. Oui. Donc, il y a toute une série de documents là-dessus. Vous pouvez retrouver ça. Hein. Ceux qui doutent, faites des recherches Google. Vous découvrez que... Non, il y a des articles de presse.
Le juif aime hurler à la mort, surtout quand il est tout puissant.
Donc bon, ça doit quand même frapper l'imagination que le chiffre sanctifié des 6 millions, je rappelle que si vous doutez, pas si vous contestez seulement, si vous doutez des 6 millions, si vous dites en public, je doute des 6 millions, vous passez devant un tribunal. Donc vous n'avez pas le droit de douter d'un chiffre dont on découvre, là, selon les dernières sources juives, israéliennes et universitaires américaines, que c'est un truc qui est sorti de la bouche d'un juif de Pologne, ou non, d'un juif hongrois, je crois, enfin, en tout cas d'Europe, qui sort ce chiffre, voilà, et le communique, et qui est repris en janvier 1944 par les organisations juives établies en Israël, et ça devient une vérité officielle. Avant même la fin du conflit, ou quoi.
Il y avait un rabbin qui disait qu'il y avait 2 millions de morts.
Stephen Wise.
Exagéré. Donc, mais un autre youtre étant passé par un dit oui, mais 2 millions, ça n'est pas assez, ça ne choque pas assez, donc on va dire 6. Donc, c'est devenu 6. C'est clairement dit dans l'article. Hein. Les juifs, dans leur presse, le disent. Ils disent ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que le rabbin, Weiss,
parlait
de 2 millions. L'autre qui est arrivé derrière a trouvé que ça n'était pas assez et a rabâché 6 millions partout, tant et si bien qu'on a torturé le pauvre Eichmann pour le faire dégueuler du 6 millions de juifs sous des caméras d'Hollywood, de caméras juives.
Oui, en sachant que Eichmann craignait bien évidemment pour sa famille. Il faut bien comprendre qu'il était entre les mains de gens déterminés à obtenir leur but, qui était ce procès spectacle, et il fallait que ça se produise. Bon, on a fait comprendre à Eichmann ce qui devait être dit, bien sûr. C'est ni plus ni moins. Bon, c'est l'évidence, et à tel point que, comme je l'ai dit, je vais pas me répéter, mais que le principal magistrat Hausner confesse lui-même que impossible de démontrer par A plus B 6 millions. Ça devrait pourtant l'être, hein, je veux dire, mais non, c'est pas possible. Ils n'ont aucune preuve.
C'est vrai, puisque puisque la loi nous l'ordonne.
Ah oui, ça, c'est certain, tout à fait. Mais ça, vous savez, ça me rappelle... Oui. Vas-y, Fulbert.
Oh, oui. Alors, Fulbert.
Alexis.
Non, mais... Oui, c'est Alexis, je crois. Oui, oui.
J'avais un petit truc à dire, c'est qu'on ne nous donne jamais de chiffres concernant les tziganes. Par exemple, on nous dit que les tziganes étaient déportés et tués massivement, mais on ne nous donne pas de chiffres, pas plus que sur les résistants de droit commun, donc pour des raisons politiques, comme les communistes, etc. Par contre, il y a 6 millions. Et puis, d'ailleurs, si on me disait, par exemple, qu'en fait, lors de la Première Guerre mondiale, il y a un peu moins de gens, ou beaucoup moins de gens qui sont morts que ce qu'on avait pensé au départ, moi, je me dirais, bah oui, mais il y a plus de gens qui ont survécu, qui ont pu vivre, bah tant mieux pour eux. Enfin, je veux dire, pourquoi voir comme une persécution le fait de devoir réviser à la baisse un chiffre qui a été évalué? C'est très bizarre comme attitude.
Déjà, si tu veux, oui, sur la
peut-être
question.
Peut-être parce que les morts servent de rente.
Non, mais oui, tout à fait. Là, ça, c'est bon. Comment dire? Déjà, franchement, moi, j'invite les auditeurs à réfléchir là-dessus. Je veux dire, combien de Français sont morts durant la guerre de toute nature, je veux dire, des
100
000,
gens. Je crois,
Ça, c'est juste. Enfin, c'est juste. C'est le conflit en 1940. Donc, il y a eu 100 000 soldats français qui ont été tués pendant le mois qu'a duré la guerre. Donc, ça a été très violent. Hein. C'est l'équivalent. On estime que c'est l'équivalent du premier mois de guerre en 1914, qui a aussi été extrêmement violent. Quand les deux armées se rencontrent, il y a un choc terrible qui, en quelques semaines, a fait 100 000 morts. Donc ouais, on était sur un conflit très violent, mais que bon, les Français ont perdu.
C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, mais si tu compares par exemple à Wagram un siècle plus tôt, 60 000 personnes en une semaine.
Tout à fait. Je veux dire, c'est bon. Ensuite, il faut y ajouter bien évidemment les bombardements de terreur sur la France. 75 000 Français sont morts sous les bombardements anglo-américains.
Les bombardements de la libération.
De la libération. Mais je tiens à souligner ça, 75 000 Français dont on ne parle jamais. En revanche, les 70 000 et quelques Juifs, pour la plupart étrangers, pour la plupart, hein, qui ont atterri en Allemagne et qui seraient gazés, puis on voit qu'il y a beaucoup de survivants hein, qui témoignent encore pratiquement 80 ans plus tard, on en parle tout le temps. Donc, tous les morts n'ont pas la même valeur. Ça, c'est un constat empirique, on ne peut pas le contester. On ne peut pas avoir 75 000 Français morts sous les bombes anglo-américaines dont on ne parle jamais, parce que visiblement c'est pas important, et 70 et quelques mille Juifs dont on parle tout le temps. Là, y a un problème. Bon. Et ça, c'est juste ces morts-là, entre guillemets. Vous avez aussi des gens qui ont été assassinés par les bandes terroristes rouges. Aux ordres de Moscou, je ne veux quand même pas oublier non plus les bandes terroristes aux ordres de Gaulle, et des juifs, et je veux aussi souligner que de Gaulle a très expressément indiqué à la juiverie américaine, très publiquement, qu'il allait restaurer les juifs dans leurs droits, il avait utilisé le mot israélite d'ailleurs, donc il avait tout de suite, il avait compris, voilà, il avait dit aux juifs, à la juiverie internationale, il avait dit « je suis votre homme, je suis celui qui va remettre les juifs au pouvoir en France ». C'est ce qu'il avait dit, de Gaulle. Bon. Et il avait aussi ses commandos de tueurs qui allaient tuer des gens qui pouvaient gêner dans l'immédiate après-guerre. Et puis, bien évidemment, l'épuration. Épuration d'une violence absolument inouïe qui a très souvent des règlements de compte à caractère politique, des gens qui ont été abattus, parfaits innocents. Hein. On a beaucoup d'histoires comme ça, moi j'en connais beaucoup, de gens mais qui n'ont même jamais été impliqués dans des questions politiques, mais qui étaient, comment dirais-je, qui n'étaient pas en odeur, dont la famille n'était pas en odeur de sainteté avec tel ou tel brigand rouge, et qui décidaient de violer une fille comme ça, et ensuite de s'en débarrasser pour pas qu'elle parle et l'assassiner.
Il faut se rendre compte que dans les années 30, beaucoup de familles, de Français, étaient d'extrême droite. Les journaux d'extrême droite, Je suis partout, avaient un tirage tout à fait, comment dire, tout
oui,
à fait,
significatif, entre autres.
Significatif. Hein. D'autres, hein, qui étaient un petit peu plus bourgeois, avaient des tirages tout à fait intéressants. La République a failli tomber en 34. Enfin, elle aurait pu tomber s'il n'y avait pas eu des.
Si Maurras avait peut-être fait prendre un peu plus de courage, peut-être.
Oui, Maurras et l'autre, comment il s'appelle, là, Casimir.
De la Loc. De la Loc.
Casimir de la Loc, voilà. Bref, voilà, c'est effectivement.
On est républicain ou on l'est pas, j'ai envie de dire.
Voilà, donc il y avait en tout cas au niveau populaire de
Ah oui, il y avait un bouillonnement, il y avait un bouillonnement.
bouillonnement et de nombreuses familles qui étaient dans un fascisme
Tout à fait.
qui était le plus clair. Donc
Alors
quand ils sont
je précise
arrivés
aussi,
là.
pour ceux qui ne le savent pas, un fascisme qui n'était pas pro-allemand. Souvent bien le contraire d'ailleurs.
Oui, c'était un fascisme.
Ce sont deux choses distinctes.
Plutôt, pour le coup, un fascisme qui était tourné vers l'Italie, vers Mussolini. Bon, comme les Français l'étaient depuis pas mal de temps, plutôt assez anti-allemand. Mais voilà, c'était l'alliance avec le. Surtout qu'il y avait eu des manœuvres de Mussolini dans les années 30 pour contrer quand même certaines avancées allemandes sur le
Oui,
plan de
en
monde.
Autriche notamment,
Donc
ouais.
voilà. Donc ça pouvait. Ça avait réveillé les nationalistes français dans une logique d'alliance avec le fascisme mussolinien. Et donc tout ça, c'était une réalité sociologique. Hein. C'était quelque chose qui est de bien réel. Et quand sont arrivés les Rouges, qui ont été alliés, hein, d'ailleurs, avec les circonstances, hein, avec le Reich pendant un certain temps,
Ouais,
mais quand
on est...
ces Rouges-là ont eu les armes et la loi avec eux, enfin la loi, en tout cas l'impunité, ils ont massacré des familles, massacré des. Oui, mais ils ont massacré des familles, des villages, de manière tout à fait terrible. On a des cas alors particulièrement dans le sud-ouest, encore une fois, parce que les Rouges n'étaient pas forcément des Français. Hein,
Oui aussi, oui, il y a ce phénomène-là,
cette
oui. Ouais.
race maudite que sont les Espagnols rouges. Ont dépecé des Fran ont dépecé hein, ils viennent dépecer des Français de manière tout à fait sauvage hein. La sauvagerie rouge, la sauvagerie métèque a pu s'exprimer à ce moment-là en accord avec Jéhovah.
Bah,
Vous
c'est
tout ça
oui,
qui
c'est très bien que tu
est bien
soulignes ce cas précis, puisque durant l'occupation, il y avait toute une série, vous savez, de maquis à droite à gauche, qui servaient en fait à des gens qui étaient déjà des asociaux avant la guerre, à se cacher et à continuer leurs activités à caractère criminel, car très souvent, ces maquis communistes étaient surtout d'abord, enfin étaient d'abord et avant tout composés de criminels. La frontière était très ténue en réalité. Et on a eu comme ça, même dans la France profonde, c'est-à-dire dans les campagnes les plus reculées de France, on a eu comme ça des Espagnols rouges qui étaient hébergés dans des villages, etc., et qui devenaient des commissaires politiques, et qui étaient particulièrement radicaux. Et bien sûr les Juifs. Alors là, il y a une vieille juive qui a passé l'arme à gauche, alors elle aussi, elle a survécu.
Roltangui.
Ouais, non, non, non,
Non,
non, ça c'est non, non, c'est une autre.
pas.
Roltangui n'était pas juive, pas que je sache en tout cas, mais c'était une autre, et qui avait aussi survécu aux chambres à gaz. Alors c'est extraordinaire, parce qu'elle a été arrêtée en 42, et en 45 elle est vivante. Alors qu'on nous explique que c'est des gens qui vont à la chambre à gaz une fois descendus du train. Bon, on nous explique pas plus, évidemment, oui, vous comprenez, bon bref, voilà, on comprend qu'on comprend pas, quoi, bref.
Comme Simone Veil d'ailleurs,
Tout à
l'avorteuse,
fait,
d'accord,
Krasuk,
donc
elle
c'est un
était dans le
peu.
groupe de Krasucki. Et Krasucki,
Oui.
comme Simone Veil,
C'était un ressuscité.
ont été officiellement gazés à Auschwitz. Officiellement, hein, c'est dans les documents officiels. Krasucki, Simone Veil, gazés à Auschwitz. Bon, tout va bien pour eux, ils ont fait carrière après, mais voilà. Donc, c'est très curieux. Il y a beaucoup de gens qui ont été comptés comme morts, qui en fait étaient en excellente santé. Et cette juive-là appartenait à une organisation dont je voulais évoquer le nom, c'est les FTP-MOI. Donc FTP, Front Tireur Partisan, organisation terroriste rouge, aux ordres du Parti communiste de l'Union soviétique, via le PC clandestin en France. MOI, main-d'œuvre immigrée. Et dans cette organisation, on comptait énormément de juifs. Énormément de juifs. Des juifs qui avaient quitté leur pays respectif, qui la Pologne, qui la Hongrie, qui la Roumanie, évidemment l'Allemagne, etc. Tous ces mecs s'étaient réfugiés en France, la France du Front Populaire, du Juif Blum, s'étaient réfugiés en France pour poursuivre la mise à feu du continent, parce que c'était ça l'objectif de l'international communiste sous le contrôle des Juifs. Ces gens-là, comment dirais-je, on les a retrouvés dans cette organisation. Et ils commettaient des attentats partout, sur tout le territoire français. Et ils tuaient des civils français. Et évidemment, et maintenant, et alors, De Gaulle s'est empressé de célébrer toute cette bande, parce qu'il était allié avec les communistes. Et 75 ans après, ces juifs terroristes du Parti communiste continuent de trôner. Alors que les gars ont du sang sur les mains, du sang de français innocent sur les mains. D'accord ? Ça, c'est la réalité. Et ça a été permis grâce à cette crapule de De Gaulle. C'est grâce à ce mythe de l'Holocauste qu'ils peuvent faire passer toutes ces saloperies en arrière-plan, en fait. C'est, voilà, ils peuvent faire passer tout ça.
Est-ce que tu me permets de faire un petit peu une digression, de parler d'un cas que j'ai connu, personnel ouais, est-ce que tu permets?
Oui, vas-y, si c'est, oui, pourquoi pas.
Bah, c'est en rapport avec ça, si tu veux. C'est par rapport à ces résistants, ces métèques, ces espagnols qui venaient, leur haine, leur envie de tuer des Français. Moi, j'ai eu le témoignage quand j'étais à l'école d'une ancienne, entre guillemets, résistante. Qui était du cru pour le coup, hein, donc du sud-est, et qui et dont le rejeton, hein, le petit-fils était à l'école avec moi. Donc le machin en question était un métis de cette nana et de d'espagnol qui s'était bien mouillé. C'était un demeuré de premier ordre, hein, demeuré, hein, semi-débile, voire plus que semi. Et elle était, cette nana-là, qui était, je sais pas si elle était mère ou quoi, de son village à la con, ou ancienne mère, ou enfin, bon, elle avait fait de la politique après la guerre, et avait tenu son village pour les Rouges, dans ce coin-là. Était venu expliquer dans les écoles qu'il y avait encore dans là où nous étions certaines familles dont nous savions qu'ils avaient collaboré. On ne savait peut-être pas trop ce que ça voulait dire. Est-ce qu'ils avaient été réquisitionnés est-ce qu'ils avaient une ferme et ils étaient réquisitionnés pour accueillir des soldats allemands, probablement. Mais bref. Ils en avaient tué quelques-uns dans les endroits, enfin dans les moments un petit peu troubles de la reprise hébraïque du pouvoir, et ils n'avaient pas pu finir le travail correctement. Et c'est plus de 50 ans après, ça a travaillé encore de ne pas avoir pu tuer les Français, si tu veux. Bon, elle a été, effectivement, tu as parlé des forces étrangères. Elle nous a bien fait l'article qu'elle s'était maquée avec des Espagnols, un Espagnol rouge, avec lequel elle avait eu ses descendants, dont l'espèce de demeuré qui était dans la classe avec moi.
Ah ouais, c'est intéressant.
Voilà. J'espère qu'elle est crevée à l'heure actuelle, qu'elle a beaucoup souffert, hein. Mais cette race-là a passé des années à aller dans les écoles pour professer la haine des Français qui, ma foi, n'étaient pas des terroristes, en fait. Hein.
C'est des gens qui voulaient...
Elle nous racontait des histoires de terroristes où ils allaient attaquer un truc à droite à gauche. Ils se foutaient des représailles complètement.
Non, c'est plus vicieux que ça. C'est-à-dire que c'était le principe même de la guerre révolutionnaire. Qui a été théorisé par Trotsky d'ailleurs quand il a formé l'armée rouge, C'est-à-dire que donc la guérilla, une tactique de guérilla, c'est-à-dire que le but du Parti communiste français et des FTP, lorsqu'ils commettaient des attaques, le but était de forcer les Allemands à faire des représailles. Donc le but du Parti communiste, c'était que des Français meurent, que des civils meurent. C'était ça l'objectif. C'était la philosophie même des actions spectaculaires qu'ils menaient. C'était pas du tout de vouloir neutraliser militairement l'armée allemande. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'était de contraindre les Allemands à réprimer. Bon. Et il le faisait avec un cynisme absolu, et même en réalité une certaine jubilation, hein, puisque c'était des gens qui, je le dis, je le répète, c'était des marxistes. Ces gens voulaient mettre la France à feu et à sang, ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la France à feu et à sang. Et ils ont assassiné aveuglément et impunément. Et ils ont été remerciés pour ça, grâce à De Gaulle. Ils ont reçu des médailles, des légions d'honneur. Et encore aujourd'hui, ils ont des stèles, etc. C'est ces gens-là. Donc le 8 mai 45, hein, on en parlera peut-être un petit peu après, c'est ça qu'on commémore, quoi. Alors, tous ces gens ont accepté, ont voulu être les serviteurs des Juifs. C'est ce qu'ils ont voulu être. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc tous ceux qui ne voulaient pas plier devant les Juifs, pour certains ont été tourmentés, persécutés, et certains ont été assassinés, effectivement. Simplement parce qu'ils refusaient de plier devant les Juifs. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Alors.
Oui. Le terme épuration, d'ailleurs, tout petit détail, mais cette période d'élimination de patriotes, souvent sur la base de simples soupçons, comme tu l'avais dit, s'appelle donc épuration, donc pour des gens qui prétendent condamner toute apologie de la prétendument de la suprématie d'une race sur une autre. Là, on est dans l'épuration. Bon, bah écoutez, c'est eux qui le disent, hein. Bon. Ça fait écho, par exemple, à l'écrivain juif soviétique Ehrenburg, qui avait en 1942 publié un poème qui s'appelle « Tu l'Allemand », et dans lequel il dit « Ta journée est perdue si tu n'as pas tué un Allemand, si tu ne peux pas le tuer à la balle, tue-le à la baïonnette, si tu as tué un Allemand, tue-en un autre ». Bon, c'est... Bon. Bref, et donc il est mort tranquillement dans son lit à Moscou en 1967, et ses archives ont été transférées à Yad Vashem, donc à Israël.
C'était un des principaux propagandistes de la guerre du côté bolchevique, hein, pour ceux qui savent. Ilya Ehrenburg, pour ceux qui ne connaissent pas. On avait les mêmes à Radio Londres, hein, c'était truffé de juifs, comment dirais-je, notamment le chant des partisans, hein, qui est ni plus ni moins qu'un chant juif, écrit par des juifs, je précise, le chant des partisans là, que tous les connards reprennent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est un chant hébraïque et messianique de destruction de la race blanche. C'est ceux qui
repris jusque dans l'armée française, cher ami.
Ah ben bien évidemment, et ils s'en font un honneur de le chanter régulièrement, mais pas exclusivement. Hein. Il y a des gens à l'extrême droite qui aiment reprendre ce chant de bandits juifs, de terroristes juifs, qui appellent à la terreur juive. Si vous ne savez pas ce que c'est le chant des partisans, je vous invite à aller sur Wikipédia, hein, pas des sources d'extrême droite, non, sur Wikipédia, tout est expliqué, hein. Qui l'a écrit, vous lisez les paroles, la balle, le couteau, etc. Bon, d'accord, vous savez très bien de qui il parle, hein. Vous savez très bien de qui parle l'hébreu, hein. Bon. Alors, sur ce, messieurs, puisqu'on était sur les 6 millions, hein, qui finalement sont peut-être pas aussi réels que ce qu'on pourrait penser, dixit les universitaires juifs. Et on a eu des déclarations de la part du frère de Netanyahou qui vont quand même dans la même direction, récente. Hein. Donc là, je cite le Times of Israel. Voici comment s'intitule cet article. « N'emmenez plus les diplomates étrangers à Yad Vashem en premier. » Et c'est Ido Netanyahou qui fait cette déclaration. Durant une conférence organisée mercredi, le docteur Ido Netanyahou, jeune frère du Premier ministre, a déclaré que la thématique de l'antisémitisme ne devait pas être au cœur de la rhétorique publique d'Israël à l'étranger, et que les dirigeants en visite dans le pays ne devraient pas avoir pour première étape Yad Vashem, le musée mémorial national de la Shoah. Lors de la conférence sur l'antisémitisme qui a eu lieu en ligne à l'occasion de Yom Ha'atzmaout, il a déclaré que les dirigeants qui venaient en Israël ne le faisaient pas par pitié pour le peuple juif, mais pour explorer la façon dont leur lien avec l'État juif pouvait être bénéfique pour leurs propres intérêts. Netanyahou, radiologue, auteur et scénariste, a également accusé l'agence juive de donner un double discours aux juifs de la diaspora en les encourageant à immigrer en Israël tout en leur assurant que l'État, donc d'Israël, faisait tout son possible pour gérer l'antisémitisme dans leur pays, donc d'origine. Selon lui, le fait que l'institution mette autant l'accent sur la lutte contre l'antisémitisme pourrait donner de faux espoirs aux juifs de la diaspora, a-t-il dit. Il a souligné que l'antisémitisme était encore d'actualité sur les campus américains et dans les cercles musulmans et qu'il prospérait encore davantage pendant la pandémie. Netanyahou a déclaré que si les thèses antisémites devaient être exposées et contrariées, enfin confrontées, il était illusoire de penser que le phénomène pouvait être éradiqué et que c'était une erreur de consacrer autant de temps et d'efforts à le combattre. Je cite Netanyahou, « Le non-juif moyen dans le monde ne se soucie guère de savoir si un dirigeant quelconque est ou était accusé d'antisémitisme », a-t-il ajouté. « Ce qui est important, je cite encore, c'est d'expliquer les faits sous-jacents au sujet, plutôt que lancer des accusations d'antisémitisme. Cela n'a fait qu'affaiblir la capacité d'Israël à faire valoir son point de vue auprès des citoyens d'autres pays et de leurs dirigeants », a déclaré M. Netanyahou. Depuis des décennies, tous les dirigeants du monde en visite en Israël ont été conduits, en premier lieu, à Yad Vashem, a-t-il dit. Donc je le cite, il visite, donc le dirigeant, dirigeant X ou Y, quoi, il visite, observe les expositions et les photos tragiques, qu'il a probablement d'ailleurs déjà vu. Et à quoi pense-t-il? Il pense que nous cherchons la pitié. Et en tant que chef d'État, la dernière chose qui l'intéresse est la pitié. Il éprouve peut-être de la pitié pour le peuple juif, remarque Netanyahou. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est venu en Israël. Ce qui l'intéresse, en sa capacité de représenter un pays, c'est de voir comment ce pays peut aider les intérêts du sien. Yad Vashem est une institution essentielle, a-t-il dit, mais c'est déplacé que l'État souverain d'Israël y emmène chaque dirigeant en premier lieu pour qu'il voie des photos glauques d'Auschwitz. Il a évoqué Theodor Herzl, père du sionisme politique mondial. Je cite, « Quand Herzl a rencontré les dirigeants en Europe et en Turquie, il leur a exposé l'idée du sionisme et a parlé d'une chose, les intérêts de leur pays et empire. Et pourquoi, pour leur propre bien, ils devraient soutenir le sionisme et donner aux Juifs un État. Il n'a pas dit « Regardez la souffrance des Juifs, aidez-nous ». S'il a parlé d'antisémitisme, c'était seulement pour les avertir que cela pourrait pousser les Juifs à rejoindre les forces anarchistes et révolutionnaires et que cela pourrait conduire à la destruction de leur pays. Une petite forme de menace d'ailleurs. Et en cela, il avait raison. Nous devrions prendre l'exemple de Herzl et nous comporter de la même manière, déclare encore Netanyahou. Interrogé sur une alternative qu'il proposerait à la place d'une visite de Yad Vashem, Netanyahou a suggéré que le pays construise un nouveau grand site national. Il a également dit que les dirigeants pourraient être conduits au mont Herzl, le site du cimetière militaire israélien où Herzl est également enterré, au musée d'Israël, à Masada ou encore au mur occidental, et aussi à Yad Vashem, mais pas en premier lieu. Ce n'est pas correct, pas approprié et pas utile. La conférence de Netanyahou a été diffusée par Israël 2030, une organisation lancée le mois dernier dont les objectifs sont notamment d'étendre la souveraineté juive à la Cisjordanie. Donc des durs de chez durs, hein. C'est des gens qui veulent annexer ce qui reste de la Palestine. Hein. De réformer le système judiciaire et de permettre fin à l'activisme judiciaire. Donc ça c'est pour protéger Netanyahou, le Premier ministre qui est emmerdé par des juges. De rendre la bureaucratie gouvernementale plus efficace et plus transparente et de veiller à ce que la loi sur l'État-nation de 2018, donc là qui consacre littéralement le caractère racial de l'État juif, hein, qui définit officiellement Israël comme un État-nation juif, soit ancré dans le système éducatif, les institutions du pays et les relations d'Israël avec la diaspora juive.
Oui, il est dans son approche, le peuple juif a besoin de territoire pour se développer, etc. Donc ça, c'est une approche vraiment nationaliste à l'échelle du peuple juif, pour le coup. Bon, écoute, pourquoi pas. C'est un vœu pieux que nous pouvons entendre, hein, d'une part, mais ça reste pour moi un vœu pieux. C'est-à-dire que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? La démographie juive en Israël, ce sont les Hébreux, les Juifs orthodoxes, les rabbins à papillotes, hein, les fous. Ces gens qui, dès qu'il y a des goïms qui meurent, disent « Ah, Gog et Magog, c'est très bien hein, !» Les goïms se tuent entre bon, eux. Machia arrive hein. Donc, c'est plutôt ça, la réalité. Voilà, après, oui, enfin, sa vision est, à ma foi, assez, pour le coup,
judaïsée. Pragmatique, dirons-nous, pragmatique.
Pragmatique, intéressante, mais qui n'est pas en rapport avec ce qu'est la société israélienne. La démographie israélienne, c'est malheureusement ou pas, hein, ça a plutôt tendance à me faire sourire. La démographie israélienne, ce sont des Arabes, alors, musulmans. Et après, les juifs ultra-orthodoxes qui, eux, veulent reconstruire le temple, etc. Une espèce de taré à papillote. Donc, bon. C'est marrant. Surtout du fait que c'est le frangin de Netanyahou. C'est une autre acte. Il est contre, effectivement, la terreur judiciaire. Bon, c'est vrai que Netanyahou aime bien. Bon, c'est un type qui s'arrange avec la loi qui est censé faire appliquer. Bon, on sent qu'il reste juif quand même. Hein. Mais voilà, ils essayent de lancer des appels, ils essayent de se normaliser. Il n'y a pas derrière de vraies volontés étatiques.
Oui, tu veux dire que c'est...
Il n'y a pas de réalité géopolitique à laquelle on pourrait s'accrocher. Je sais déjà que ce genre de truc-là va faire que des gens qui sont déjà en rapport avec les Hébreux depuis plusieurs années pour nous vendre l'hébraïsme vont utiliser ça pendant des années pour nous dire que voilà, ces gens-là sont comme nous. Bon, non, ils sont pas comme nous, c'est pas pareil, faut pas déconner.
Moi, j'ai envie de pointer du doigt un truc qui me paraît essentiel, d'ailleurs, qu'évoque même le frère Netanyahou dans son propos, dans sa conférence. C'est une conférence, hein, c'est pas une déclaration comme ça, hein, c'est quelqu'un qui a posé son propos, donc il savait ce qu'il disait. Il souligne un antagonisme entre la diaspora juive et l'État d'Israël. En fait, ce qu'il dit, c'est que l'État d'Israël est un État. Et en tant qu'État, comme tous les autres États, il a des impératifs. Et ce qu'il dit, en substance, il dit, bon, on s'est servi de l'Holocauste, en gros, pour légitimer, aux yeux du public occidental, la création de l'État d'Israël, quoi, pour aussi racketter l'Allemagne, continuer à faire pleurer dans les chaumières, etc. Et aussi, nous ne l'aurons pas... pouvoir ratonner du palestinien sans qu'on leur tape trop sur les doigts. Mais je pense qu'ils ont bien compris que ça, maintenant, ça, c'était un discours qui allait de moins en moins porter. Je pense que c'est ce que dit Netanyahou, première chose. Il dit, voilà, l'Holocauste, la Shoah, c'est d'accord, tout ça c'est très très bien, ça a bien marché, mais qui... tendra encore l'oreille quand on en parlera, quand les boomers ne seront plus là, en substance. Les boomers blancs, occidentaux, nés tout de suite après la guerre. Donc quand ils seront plus là, est-ce qu'il y aura encore des gens qui seront demandeurs de ce type de jeu? Il n'est pas convaincu, il a raison. Il dit, voilà, l'État d'Israël devrait agir comme un État normal et arrêter de ramener cette histoire de l'Holocauste à tout bout de champ dans ses rapports avec les autres États. Parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une telle lassitude que ça risque d'être contre-productif. Notez que ça intervient à un moment où des gens commencent à reconnaître, en Israël et chez les universitaires juifs, que peut-être que des choses ont été un peu grossies à propos de la Deuxième Guerre mondiale, et ça pourrait peut-être à terme se retourner. Donc peut-être que si on mettait un petit bémol sur cette rhétorique, ça pourrait éviter peut-être des déboires dans le futur. Et deuxième chose, il dit en gros, les intérêts de la diaspora juive sont différents de ceux de l'intérêt, enfin, dans une certaine mesure, hein, sont dans une certaine mesure différents, en tout cas au plan technique, de ceux de l'État d'Israël. et que la diaspora juive est par définition installée dans des sociétés goy. Et oui, les juifs établis en France, eux, ils ont besoin de l'arme de l'Holocauste pour continuer à faire pression sur les sociétés qu'ils occupent. C'est fondamental pour eux. C'est là, pratiquement le seul joker qu'ils ont. Ça leur permet de faire passer toutes les lois dont on a parlé, d'ailleurs. Bon. Du point de vue israélien, eux, leur défense, elle est d'abord et avant tout assurée par leurs forces armées. Donc, c'est déjà pas tout à fait pareil. Et je crois qu'il y a une espèce de rapport de force. C'est-à-dire, je pense que il y a une volonté, pas de s'émanciper de la diaspora, mais de dire à la diaspora, écoutez, vous avez vos centres d'intérêt, c'est normal, mais on peut pas constamment être la caisse de résonance de vos propres préoccupations. Parce qu'on a peut-être d'autres sujets qui nous intéressent plus. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? Ah, ils aimeraient bien annexer la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'ils veulent être dans une phase dure de conquête territoriale, hein, donc de régler définitivement la question palestinienne, qu'il va falloir avoir des partenariats, et des partenariats solides d'État à État, et ça va être difficile de dire d'un côté... « Ah, oh, on a été persécutés, on nous a déplacés, on a mis dans des camps, etc. » Et de l'autre côté, d'annexer brutalement des territoires aux Arabes, en les expropriant, en les foutant dans des camps de concentration à ciel ouvert, etc. Bon, ça va être un peu compliqué. Donc je pense que le frère Netanyahou est un peu plus cohérent. Il dit « Écoutez, il faudrait peut-être qu'on soit un petit peu plus israélo-centré et un petit peu moins centré sur les préoccupations de la diaspora. » Je pense que c'est ce qu'il souligne. Mais je pense aussi qu'il anticipe un certain nombre de déboires vis-à-vis de la religion de l'Holocauste en tant que telle, en tant que phénomène social et culturel. Je pense qu'il anticipe une rupture générationnelle, en fait. Un désintérêt. De plus en plus grand. Parce que les mecs, ils en ont fait, mais quand je dis des tonnes, c'est rien de le dire. Hein. Franchement, parce que c'est allé crescendo depuis ces 30 dernières années. On est passé des années 60 où personne n'en parlait, maintenant c'est toutes les semaines à la télévision. Toutes les semaines, il faut des cérémonies, des documentaires, des témoignages, et puis ça n'arrête pas, et ils en font des tonnes et des tonnes. On sature. Alors il y a des gens qui... Alors je vous dis, il y a un bon thermomètre pour savoir si une idée est à la mode ou pas, si vous voulez, si elle est en train de crever ou pas. Quand vous voyez que le culte, la religion de l'Holocauste, aujourd'hui, au moment où je parle en 2020, hein, devient un slogan de communication de cadres très importants du Rassemblement National, donc type, ou associés, quoi, hein, Robert Ménard, Marine Le Pen, Julien Odoul et d'autres, hein, qui communiquent sur la libération des camps, etc. C'est là que vous comprenez que c'est un truc qui est en train de perdre la vitesse. Parce que typiquement, l'extrême droite institutionnelle, hein, je ne parle pas de...
Ce sont les losers.
Ce sont les perdants.
S'ils prennent ce discours-là, c'est que le truc...
il amorce plus à gauche. Eh oui, vous allez à gauche, ouais. Vous allez voir chez Mélenchon, vous allez voir c'est qui vote Mélenchon, ou même pas que Mélenchon, Parti Socialiste, ça fait c'est des musulmans, c'est des arabes, c'est des bougnoules. Si vous allez voir des nègres, les mecs, ils vous disent « l'esclavage, le truc !» D'ailleurs, ils sont en train de commémorer l'esclavage, là, Macron est encore en train de baver là-dessus. Donc, vous avez les nègres, c'est l'esclavage. Donc, si vous leur parlez d'Holocauste, ils disent « l'esclavage, la traite négrière !» Bon, si vous parlez aux Arabes, ils vous parlent de Palestine, hein, ou ils vous parlent de colonisation. « la guerre d'Algérie, les crimes, etc. » D'ailleurs, on était 8 mai 45, l'Algérie vient d'en faire un jour officiel de commémoration. Des crimes de sétif, c'est-à-dire des assassinats de masse, enfin, bon, c'est complètement délirant, qui auraient été commis par l'armée française. Donc les mecs copient les juifs, que ce soit dans leur pays d'origine, ou bien en France. Donc le discours sur l'Holocauste, ça ne passe plus dans toutes ces banlieues, dans tous ces quartiers, ça ne passe plus. Donc, à gauche, c'est pratiquement en train d'être abandonné, tandis que l'extrême droite, fièrement, hein, ayant l'impression de pouvoir enfin en être, reprend ça, typiquement le RN, quoi. Je crois que Netanyahou, il n'est pas aveugle. Je parle du frère, là. Il n'est pas aveugle. Les mecs voient bien l'évolution de l'opinion, ils passent leur temps à ausculter ça dans tous les détails. Je veux dire, bon, ils voient bien que c'est une bataille perdue, ils prennent des lois, ça prend pas, c'est... Les gens en ont marre d'entendre parler de pyjama rayé, hein, ils en ont marre. Ah, ils en ont marre d'entendre parler de juifs aussi. Voilà, je pense que là, je suis d'accord avec toi, hein, Derek, quand tu dis, bon, c'est un propos, voilà, mais c'est isolé, ça restera isolé, je suis d'accord avec ça. Mais c'est assez lucide. C'est assez lucide. Quant à la réalité du monde en 2020, d'un point de vue, on va dire, israélien. C'est assez lucide, me semble-t-il. Et il parle des États-Unis, hein, il dit...
Ah, c'est lucide sur ce qu'il devrait faire s'il voulait garder une influence.
Oui.
Mais c'est sans compter, effectivement, que que ce soit les États-Unis, la France ou d'autres pays d'Europe sont truffés de juifs qui tels les boomers ne lâchant pas leur croisière, les juifs ne lâcheront pas leur holocauste, coûte coûte. Ces gens-là, en tout cas, ont importé des Algériens parce qu'ils ne supportaient pas de vivre avec des Français. Il faut voir quand même la chose. Ils l'ont dit dans des reportages, hein, les blooms, les cils, là, ils ont dit, oui, non, mais nous, on ne se sentait pas bien quand on est parmi les Blancs.
Oui.
Mélenchon le dit aussi.
Hein, tout à fait.
Donc bon, c'est, ça reste marginal, et aussi, ça restera de toute manière
marginal. Ça restera marginal, mais moi, le problème qu'ils ont, c'est qu'en gros, Israël, par définition, c'est même comme ça qu'ils sont présentés, c'est l'état des juifs, mais pas uniquement des juifs d'Israël, c'est l'état des juifs en général, c'est quand même comme ça qu'ils se présentent. Mais ils sont un peu les otages quand même de leur diaspora, pour cette raison. Or, prenez quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, je prends un cas caricatural pour me faire comprendre, ou Jacques Attali. C'est des gens qui vivent à Paris, ou dans des palaces. Bernard-Henri Lévy est connu pour préférer les palaces de Londres, de New York, de Paris, parfois il va aussi au Maroc, etc. Bon, c'est un itinérant, c'est vraiment le juif éternel, Bernard-Henri Lévy, hein, c'est vraiment bon. Alors, des fois, il va en Israël. C'est pas quelqu'un qui vit en Israël. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui préfère de beaucoup pérorer sur les plateaux de télévision parisiens. C'est ça, c'est son truc. Saint-Germain-des-Prés, c'est sa vraie patrie. C'est un cosmopolite. C'est un vagabond. Or, les Juifs, quand même, parce que leur état en Israël, il a maintenant plus de 70 ans, le temps passe. Les types s'établissent progressivement, génération après génération. Donc, les vagabonds, ça peut leur servir de relais d'influence, mais au bout d'un moment, il commence à vraiment y avoir des incompatibilités, je veux dire, pas radicales, mais des incompatibilités sociologiques, quoi. C'est-à-dire que, bon, entre des mecs qui font 3 ans, je crois, de service militaire en Israël, et des intellectuels progressistes ashkénazes de Saint-Germain-des-Prés, bon, il y a une même origine, hein, leur sympathie aussi est là, mais bon, c'est peut-être pas les mêmes préoccupations quotidiennes, quoi. Et moi, je veux dire, quand les Bernard-Henri Lévy et Attali auront fait leur temps, qu'est-ce qu'il y aura derrière? Moi, je suis pas très convaincu de la relève, hein. Je veux dire, si c'est les fils de Bernard-Henri Lévy ou les fils d'Attali, si c'est des gens comme ça, généralement encore moins doués que leurs ascendants, qui feront la retape pour Israël, oui, ça peut plomber au bout d'un moment, oui. Ça peut plomber. Donc là, pour le moment, il y a quelque chose qui se passe, quoi, je pense. Quelqu'un veut-il dire quelque chose là-dessus? Sur tout ce qu'on a dit. Sur le point qu'on a dit, là, abordé. Fulbert, t'as rien à dire? Ça me surprend un peu.
Ah, si, j'aurais plein de choses à dire, mais bon, j'ai l'impression qu'on se... Quand je parle, moi, j'ai parfois l'impression que je me répète tellement... Enfin, bon... oui, il y a quelque chose à dire, oui. C'est une race de merde, il n'y a pas... Et il suffit de regarder son histoire. Elle est merdique, même les légendes qu'elle s'est créées, la dernière en date étant, bien sûr, la presque dernière étant l'Holocauste. Mais franchement, quand vous lisez la traduction faussée de la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et vous voyez quel est l'esprit de ces gens. Ils n'ont pas évolué, ça fait quoi, 2500 ans qu'ils ont couché pour la première fois la Torah sur ce qui servait de papier. Ils n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Ils ont inventé les sicaires, ils sont toujours là, ils sont toujours des sicaires sous différentes formes pour faire chier tout le monde, pour faire crever tout le monde. Alors, ce qui me tue, moi, tu sais, c'est de voir le nombre d'abrutis qu'il y a parmi nous, parmi les Blancs, qui sont parfois très âgés, qui n'ont rien observé de toute leur vie, rien, pas iota, qui continuent à admirer les Juifs. À la limite, si on les poussait un peu, ils les suceraient. Mais bon, voilà quoi. Moi, ça me tue, franchement, ça me fatigue, ça m'use.
Oui, il y a une lourdeur, il y a une pesanteur, il y a une répétition usante dans tout ce qu'on entend, parce que, comme on l'a dit, vous savez, quand vous allez, prenez les travaux de Vincent Renoir, pour ne citer que Vincent Renoir, il a fait toute une série sur Shoarnak, quand vous allez creuser dans les détails de l'Holocauste, vous découvrez des tas de trucs qui tiennent pas à la route. D'accord, je ne vais pas faire un exposé révision ici, ce n'est pas l'objet, mais vous savez que c'est truffé de bobards. Vous le savez parce que voilà, c'est indéniable sur la base des documents, etc. Vous savez que ce qu'ils... Bon. Mais en fait, les gens se contentent de répéter ce qu'ils entendent. Et c'est un petit peu comme cette pandémie là qu'on a vendue aux gens. Les gens sont convaincus d'avoir échappé à des millions de morts. Hein. Ils sont certains qu'ils allaient crever. Quoi. Voilà. Mais ils ne vont pas voir.
Mais je vais me permettre de t'interrompre.
Vas-y, bien sûr, je t'en prie.
À ce propos, justement, c'est un petit peu dans... C'est vrai, tu as raison de le dire, c'est dans le même ordre des choses. Mais le Covid-19, il a un avantage énorme. Tu sors dans la rue, tu vois tous ces crapauds qui se sont mis un masque sur la gueule. Moi, je suis contre ça. Ils se sont mis un masque sur la gueule et tu te dis... Putain, ce type-là, il est con, il est en dessous de la limite inférieure. Et tu vois le nombre de trous du cul qui se baladent dans les rues en Europe. Et tu te dis, si tu fais un parallèle, quand tu penses qu'avec l'Holocauste, il croit autant à l'Holocauste qu'il ne croit au Covid-19. Je ne mets pas en doute le virus, je ne le mets pas en doute. Je mets en doute sa capacité de nuisance, je mets en doute... La volonté de choc que nos dirigeants nous ont imposée grâce à lui. Tout ça, je mets en doute. Et c'est comme l'Holocauste, en fait. Nos dirigeants, ils sont aussi pour quelque chose.
Bah, démonter le mythe de l'Holocauste, c'est central. Les gens doivent le comprendre. Pour une raison très simple. C'est ce qu'ont trouvé les Juifs pour légitimer la prise de contrôle de l'esprit des Européens. C'est véritablement une religion. C'est la sémitisation des esprits en Europe. C'est ça la fonction de l'Holocauste. C'est une synagogue pour Goy. Et ça doit sauter. Il n'y aura jamais... C'est une aliénation. La religion de l'Holocauste est une aliénation. C'est fait pour aliéner les masses blanches et les transformer en sous-serviteurs des Juifs. Voilà, c'est fait pour ça. Pour qu'ils vénèrent les Juifs. C'est fait pour ça. Donc c'est une question spirituelle. On ne peut même pas faire... Par exemple, hypothèse, vous êtes chrétien pratiquant, vous ne pouvez pas croire dans la connerie de l'Holocauste. C'est une religion. Si vous cédez à ça, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes plus chrétien. Je vous donne un exemple, hein, c'est simplement un exemple. Mais c'est une question de liberté et de dignité de n'importe quel être humain que de refuser cette aliénation imposée par un système. Tu parlais des politiciens, c'est pour ça que je dis ça. Parce que des gens vivent de ça. Ils légitiment leur pouvoir par ça. Quand vous remettez en cause le système, parce que c'est tous des pourris, très vite, les mecs vous disent populiste, démagogue, fasciste, on sait très bien où vous voulez en venir. Et puis là, évidemment, ça se termine à Auschwitz à chaque fois. C'est à chaque fois ça, alors que ça se trouve, tu pars complètement d'autre chose. Le mouvement des Gilets jaunes a été caricatural à cet égard. Les Gilets jaunes, quand ils ont commencé à faire chier trop de monde au bout de 2 semaines, on a vu les Hébreux sortir du bois et commencer, des mecs comme Patrick Cohen, là, faire le procès du mouvement en disant, mais voilà, mais ils sont antisémites. Oh, ils sont antisémites, hein. S'ils le savent pas, ils le sauront bien assez tôt. Voilà. C'est ça, je veux dire.
Bah oui, d'ailleurs, quelque part, tu parles de religion, mais quelque part, c'est l'11e commandement, hein. Du
oui.
Martyr des nôtres, tu ne douteras. Tout simplement.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, bah, il se présente comme victime, mais évidemment, il y a le côté culpabilisant. C'est-à-dire, c'est à tout cause à de nous qui avons, je m'excuse presque de le dire, mais c'est un double. Ils gagnent sur les deux plans, quoi. Hein. C'est-à-dire, ils se présentent comme victime, donc. De père en fils ayant en grand, petits-enfants, etc. Donc des droits particuliers, mais en plus, effectivement, c'est à cause de nous, également de père en fils, donc il y a également, donc voilà. De même, l'esclavage, ça fonctionne un peu de la même manière, même si on nous rabat peut-être un petit peu moins les oreilles avec ça. Le réchauffement climatique, c'est aussi de notre faute, avec notre Twingo, si on pollue trop, c'est à cause de ça que la nature, etc., bon, je sais pas quoi. Donc, toujours pareil, quoi. Culpabiliser des gens, on culpabilise, mais c'est extrêmement difficile, voire impossible de réparer cette faute ou prétendue faute, évidemment.
Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, le juif, il gagne sur tous les tableaux, parce que c'est à la fois la victime, allégué et l'accusateur. Il est jugé parti. C'est lui qui fait votre procès, et en même temps, il est parmi les parties civiles. C'est très commode. Bon, voilà. Donc, et c'est censé se répercuter de génération en génération, donc effectivement. Écoutez, messieurs, je vous propose de nous séparer pour cette semaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci. Merci beaucoup, les gars, merci.
Tu as vu le commentaire?